Nous sommes le lundi 29 août. Bonne rentrée à toutes et à tous.
Je peux pas aller en ville sans regarder derrière moi. Quoi. Tu sors ton portefeuille, t'es pas sûr. J'ai pas cette tranquillité d'esprit qu'on avait il y a quelques années. Quoi. On se sent vraiment laissé à l'abandon.
Et à la une de l'actualité, le constat amer de ce Montpelliérain face à l'insécurité galopante dans sa ville, la capitale de l'Hérault, minée par la délinquance et le trafic de stupéfiants. La préfecture envoie des CRS en renfort pour sécuriser les rues. Reportage dès le début de ce journal. Les trafiquants, jamais à court d'idées pour déjouer les pièges tendus par les policiers. Fini l'importation de cannabis depuis l'étranger via des bolides lancés à toute allure sur les routes. On produit désormais sur place, dans nos villes, dans nos campagnes. Enquête à suivre de William Molinier. Et puis l'ouverture de l'université d'été du MEDEF. Et cette question ce matin, les entreprises sont-elles prêtes à augmenter les salaires pour s'éviter une rentrée sociale agitée? On va voir ça dans un instant. On aura aussi un mot du football. Le Paris Saint-Germain a été accroché hier soir par Monaco. Un but partout.
Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Et le premier journal de ce 7-9 vous est apporté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'insécurité n'est pas qu'un sentiment à Montpellier comme à Béziers. C'est une réalité. Ces deux villes de l'Hérault, voisines de 70 km, sont gangrénées par le trafic de drogue et la délinquance qui l'accompagne. Le préfet du département confirme l'arrivée de 160 CRS en renfort dès septembre. C'est peu dire qu'ils sont attendus de pied ferme. Les Montpelliérains l'affirment. Leur quotidien est devenu un enfer. Reportage Thibaut Hue.
C'était là où il y avait marqué tu viens, coffee shop, tu veux acheter, tu veux ci, tu veux ça. Et ils vendaient dans les couloirs. Là.
Sous les doigts de Garib, de la peinture, encore fraîche, les inscriptions au mur de cet ancien point de deal effacé quelques heures plus tôt. Dans ce quartier où il vit depuis 30 ans, situé à 2 km du centre, il voit le trafic de drogue dangereusement gagner du terrain.
Il y en a un toujours, il veut vendre plus que l'autre et il veut prendre le monopole. Au milieu, t'as l'honnête de citoyen qui peut passer, qui peut prendre une balle ou être pris à partie.
Pas assez de budget pour les associations de quartier, pas assez de policiers dans les rues, dénonce alors certains comme Fred, assis en terrasse sur une chaise en plastique.
Je peux pas aller en ville sans regarder derrière moi. Quoi. Tu sors ton portefeuille, t'es pas sûr. J'ai pas cette tranquillité d'esprit qu'on avait il y a quelques années. Quoi. On se sent vraiment laissé à l'abandon. Quoi.
Quelques arrêts de tram plus loin, en plein centre-ville, l'inquiétude se fait aussi ressentir. Lorsque la nuit tombe, la place de la Comédie devient presque impraticable pour Charlotte, une jeune étudiante de 19 ans.
Je me suis déjà fait suivre quelques fois. C'est vrai que je suis pas du tout sereine en fait, de rentrer toute seule jusqu'à chez moi. J'essaie toujours de sortir accompagnée, surtout avec des garçons, parce que ça me rassure de me dire que je suis pas toute seule. Donc c'est vrai qu'on aimerait un peu plus de sécurité dans la ville de Montpellier.
Et si certains restaurateurs de la place remarquent que les patrouilles de police sont de plus en plus nombreuses depuis un an, ils regrettent que cela ne soit toujours pas suffisant. À Montpellier, Thibaut Hue, Europe 1.
Voilà, et cette insécurité à Montpellier, on va en reparler avec le préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, juste après ce journal. Il sera l'invité de l'actu d'Europe 1 ce matin. On a beaucoup de questions à lui poser, notamment celles qui tournent autour du trafic de drogue. Les trafiquants, apparemment, ont trouvé la parade au plan anti-stup déployé par les autorités.
Et fini les go-fast, ces bolides chargé de cannabis qui traverse la France à toute allure. L'importation de drogue sous toutes ses formes cède progressivement la place à la cannabiculture. On produit sur place. La drogue est cultivée dans des fermes isolées ou des zones désaffectées. William Molinier, vous avez eu accès à une note de la police judiciaire. Le business s'avère très rentable.
Oui, rentable et de plus en plus accessible grâce à l'achat de graines sur Internet, voire directement dans les gros shops. Ces magasins qui ont pignon sur rue au nombre de 300 sur le territoire français, ils vendent en toute légalité le matériel indispensable pour faire pousser du cannabis. Les analystes de la police judiciaire estiment dans cette note qu'une plantation de 6 pieds a un rendement annuel de 14 400 euros pour un investissement initial de seulement 500 euros. À grande échelle, les profits s'envolent. 1000 plants produisent 200 kilos d'herbe à l'année, soit 2,4 millions d'euros. À la revente au détail. L'appât du gain facile conduit certains dealers de cité à se diversifier. Ils font parfois appel à des anciens trafiquants néerlandais pour installer et lancer leur système de production. Ils nouent aussi des alliances de circonstances avec la communauté vietnamienne qui leur fournit des gestionnaires et des jardiniers pour les 5 récoltes annuelles. Ce business fait des jaloux. D'autres groupes criminels tentent de mettre la main sur les cannabicultures existantes, si bien que selon nos informations, au cours de leurs enquêtes, les policiers ont même constaté le recours à des pièges anti-vol comme l'électrification des portes ou l'emploi de personnel de surveillance armé jusqu'aux dents pour protéger les sites de production.
William Molinier du service Police-Justice d'Europe 1.
Il est 7h04. Le MEDEF fait sa rentrée aujourd'hui à l'hippodrome de Longchamp.
Et Volodymyr Zelensky et Elisabeth Borne sont les invités de marque de cette université d'été du patronat. La première ministre pourrait rappeler aux entreprises l'objectif fixé par Matignon, une réduction de 10% de leur consommation énergétique.
Alors il sera évidemment question également de l'inflation et de la hausse des salaires. Les entreprises sont-elles prêtes à faire un geste en direction de leurs employés ? Réponse plutôt mitigée.
Mais oui, certaines estiment ne pas être en mesure de pouvoir le faire. La faute à des coûts de production qui ont explosé. D'autres affirment avoir déjà pris les devants pour s'éviter une rentrée agitée. Aurélien Fleureau.
Alors, il y a les entreprises qui ont essayé de se garantir une rentrée sociale la plus calme possible en augmentant les salaires un peu avant l'été, lors de négociations en plus des rendez-vous annuels de début d'année. C'est par exemple le cas chez Michelin qui a octroyé jusqu'à 6,75% d'augmentation en deux temps pour les plus bas salaires. Chez Orange, l'enveloppe dégagée pour augmenter les salariés de 700 à 800 euros bruts par an ne sera peut-être pas suffisante et les syndicats devraient le faire savoir en cette rentrée. Et ce qui est certain, selon Bertrand Martineau, expert du marché du travail à l'Institut Montaigne, c'est que la période qui arrive dans les entreprises est une plongée vers l'inconnu.
Les DRH, les chefs d'entreprise et les négociateurs syndicaux aussi, n'ont jamais connu ça en fait. Ceux qui l'ont déjà connu sont en retraite aujourd'hui. Et on s'aperçoit qu'on rentre dans un régime de croisière inflationniste pendant encore quelques temps et ça va remettre en cause tous nos réflexes en termes de salaire, mais également de fixation des prix aussi et de comportement de marge des entreprises. Tous nos repères vont être bouleversés.
Et si dans les grandes entreprises, des augmentations générales parviennent à être négociées, dans les PME, c'est plutôt une politique de prime qui est privilégiée pour apporter une réponse immédiate à l'inflation.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
La rentrée politique également hier pour Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est livré à sa traditionnelle ascension du Mont-Mézin, l'œil rivé sur 2027.
Hein, c'est bien connu, quand on marche, il faut regarder devant soi. Laurent Wauquiez n'est candidat à rien à court terme, pas même à la présidence des Républicains qui se cherchent un nouveau leader. En revanche, Alexandre Chauveau, ça n'a pas empêché de poser ses jalons pour la prochaine présidentielle.
Oui, préparer dès aujourd'hui l'après-Macron, voilà l'objectif fixé hier par Laurent Wauquiez. Dans un discours d'une vingtaine de minutes, il met le cap sur la prochaine présidentielle.
C'est une tâche immense à laquelle je veux me consacrer entièrement. Et il faut se préparer dès maintenant. Parce que cela fait des années qu'on se prépare à la dernière minute et qu'on ne se donne pas les moyens de construire le redressement de notre pays.
Applaudissements des 500 militants présents, au premier rang desquels Éric Ciotti, candidat à la présidence des Républicains. Le député des Alpes-Maritimes espère bien obtenir le soutien de Laurent Wauquiez, qu'il compte voir l'emporter en 2027.
Sa place, elle est de nous conduire à la victoire, à la présidence de la République. C'est un chemin singulier, c'est un chemin de hauteur, c'est un chemin exigeant. Et si je suis président des Républicains, eh bien les Républicains accompagneront Laurent Wauquiez vers l'Élysée et le feront gagner.
Place ensuite à l'ascension du Mont-Mézin.
Allez, go, c'est parti.
Effectuée en un peu plus d'une demi-heure, l'occasion de tester sa popularité dans son fief.
Ça va, ça fait plaisir tout de vous voir.
Une popularité qu'il a donc 5 ans pour étendre à l'ensemble du pays, lui qui pâtit d'une image écornée auprès d'une partie de l'opinion.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Des pluies diluviennes au Pakistan ces dernières heures, elles ont déjà fait plus de 1000 morts. Le bilan pourrait encore s'alourdir.
Et oui, parce qu'un nouveau déluge est attendu dans les prochains jours dans le sud du pays. Plus de 33 millions de Pakistanais ont été touchés par ces intempéries, près d'un million de maisons ont été détruites ou gravement endommagées.
Et puis Paul Pogba a-t-il été victime d'une tentative d'extorsion en bande organisée ? La police a ouvert une enquête.
Le champion du monde 2018 avec les Bleus affirme avoir été menacé par un groupe d'hommes armés qui lui réclame 13 millions d'euros. L'affaire prend une tournure familiale puisque son propre frère Mathias figure sur la liste des suspects. Le football côté terrain, quatrième journée de Ligue 1, match nul un partout entre Paris et Monaco. Les Parisiens sont apparus nettement moins à l'aise que d'habitude, Cédric Chasseur.
Oui, avec de l'intensité, un pressing constant et de la bonne agressivité dans les duels, les joueurs de la Principauté ont gêné cette équipe parisienne. C'est simple, on n'a pas reconnu le PSG du début de saison, notamment en première période où Monaco a ouvert le score. Un scénario qui a laissé pantois les protégés de Christophe Galtier, peu habitués à se faire bousculer de la sorte.
Mon équipe a été surprise par ce qu'allait proposer Monaco et ça me surprend parce qu'on doit être habitué à ce genre de match-là. Je pense simplement qu'on a manqué énormément de mouvements. On aura évidemment beaucoup de matchs dans la saison de ce type-là.
Alors, est-ce que Monaco a trouvé la faille dans le système parisien, pourtant si bien huilé? En tout cas, les Monégasques ont ouvert une brèche dans laquelle les futurs adversaires du PSG auront sans doute l'envie de s'engouffrer, à commencer par Toulouse, la prochaine équipe à affronter les champions de France en titre mercredi.
Allez, ça n'empêche pas les Parisiens de rester leaders du classement devant Marseille et Lens.
Merci beaucoup Christophe Lamarre. Le sport, bah tiens, on va en reparler parce que il y a du changement à propos du sport sur Europe 1, avec Europe 1 Sport désormais tous les soirs, 7 jours sur 7. Jean-François Pérez sera avec nous et Jacques Vendroux dans le studio d'Europe 1 tout à l'heure à 8h pour nous expliquer tout ça. À suivre sur Europe 1, l'invité actu. Nous serons en ligne avec Hugues Moutou, le préfet de l'Hérault, pour parler de sécurité. Puis l'édito éco de Nicolas Bouzou. Juste après, faut-il priver les riches de jets privés ?
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Il est 7h13. Pour tenter d'éradiquer la délinquance, 160 CRS vont arriver à Montpellier et Béziers ce mois-ci. Nous sommes en ligne avec le préfet de l'Hérault. Bonjour Hugues Moutou.
Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bienvenue sur Europe 1, 160 agents.
Merci de m'accueillir.
Je vous en prie, c'est avec plaisir. 160 agents, disais-je, de force mobile en plus dans votre département, l'Hérault. Vous dites, Hugues Moutou, que c'est un déploiement d'une ampleur historique. Mais alors, en quoi est-ce historique, 160 CRS pour la sécurité ?
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a décidé d'accélérer la lutte contre la délinquance et l'insécurité. Et à titre expérimental, plusieurs départements, dont le département de l'Hérault, dont je suis le préfet, vont recevoir des forces mobiles, CRS ou gendarmes mobiles, pour lutter contre la délinquance de façon très musclée, puisque ce sont des policiers ou des gendarmes de choc. Alors moi, je vais avoir la chance d'accueillir dans les prochains jours 160 CRS. Eh bien, ça va nous permettre naturellement de mener des actions extrêmement musclées à la demande du ministre de l'Intérieur pour sécuriser les centres-villes.
Qu'est-ce que vous voulez dire par très musclé ? Parce que là, vous nous dites ce sont des policiers de choc. Mais alors, comment vont-ils être employés ?
Ce sont des policiers de choc. On va les employer, en tout cas pour ma part, dans le département de l'Hérault, à Montpellier comme à Béziers. Je vais utiliser une formule rugbystique puisque je suis sur les terres de rugby, Montpellier et Béziers. Comme des impact players. Ce sont des joueurs à un profil très, très particulier, très choc, qui rentrent en cours de match pour changer la donne. Et c'est exactement ce qui va se passer dans mon département, à Montpellier comme à Béziers.
Donc il faut s'imaginer les voir, par exemple, s'attaquer à un point de deal.
Patrouiller à pied, oui. Démanteler des points de deal. Nous menons depuis le début du mois de janvier une lutte incessante. Vous savez, ce n'est pas une guerre éclair. La lutte contre le trafic et la revente de produits stupéfiants, c'est une guerre d'usure. Et là, on a des troupes fraîches, des troupes de choc qui vont pouvoir regagner du terrain et occuper les zones les plus compliquées. Alors à Montpellier, par exemple, c'est le cœur de ville. On a un cœur de ville qui connaît naturellement, comme d'autres grandes métropoles du Sud, des problèmes de délinquance et de trafic de stupes. Eh bien là, on va pouvoir donner un coup d'arrêt et puis reprendre du terrain. Et je crois que c'est une demande très forte de la part de nos concitoyens.
Mais alors très, très concrètement, Hugues Moutou, racontez-nous, à quoi êtes-vous confronté, par exemple, dans la ville de Montpellier, quand on parle de cette délinquance dont on entendait des témoignages tout à l'heure dans le journal de 7h. À quoi on est confronté au quotidien dans les rues de Montpellier comme dans celles de Béziers ? Quelle est cette délinquance à laquelle vous avez
affaire ? La mère des batailles, c'est la bataille contre le trafic de stupes. Parce que la drogue, c'est de l'argent. C'est de l'insécurité, ce sont des règlements de compte, ce sont des trafics d'armes. Donc, pour toutes ces villes qui sont confrontées au trafic de stupes, comme Montpellier ou Béziers, c'est vraiment la mère des batailles. Et il faut déployer ces hommes pour démanteler de façon régulière et musclée les points de deal, pour éviter qu'ils ne se recomposent à quelques centaines mètres de là. Vous savez, la drogue, c'est beaucoup d'argent. Et cet argent, naturellement, c'est ce qui va entretenir tout un réseau de criminalité et de délinquance à travers le centre-ville.
Et donc,
alors, on a une forme de délinquance générale qui est importante. On a une délinquance particulière dans ces métropoles du Sud, c'est la délinquance étrangère. On a une surreprésentation des étrangers dans les actes de délinquance à Montpellier, encore plus qu'à Béziers d'ailleurs.
De quel ordre cette surreprésentation ?
On a une personne interpellée et placée en garde à vue sur deux, qui est de nationalité étrangère, avec une représentation très importante de certaines nationalités, marocaines ou algériennes. Donc cette nationalité, cette délinquance étrangère, qui a été pointée du doigt par le ministre de l'Intérieur, parce qu'il faut savoir dire les choses, nommer les choses pour les combattre, eh bien, notre programme, il est clair, c'est l'interpellation, c'est la prison et c'est l'avion dans la mesure du possible. Je crois que les consignes, les instructions que nous avons reçues sont vraiment d'une grande simplicité, d'une grande clarté. Dès que possible, suite à la prison, c'est naturellement l'expulsion du territoire.
Mais alors, Hugues Moutou, je vais vous renvoyer à ce sondage qui avait été paru, qui est paru dans les colonnes du journal du dimanche il y a 10 jours de cela. 75% des Français jugent négatif le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité. On sait que c'est vraiment un point faible pour le président de la République. On a quand même le sentiment que c'est le déploiement de ces golgottes, comme on les appelle, ces policiers impact players, comme vous dites, que c'est un peu de la sécurité spectacle malgré tout, Hugues Moutou. Comment vous pouvez démentir?
Alors moi, je vais vous dire, c'est tout sauf du spectacle. Et vous demanderez aux délinquants qui seront interpellés et placés en prison et expulsés quand ils sont étrangers si c'est du spectacle. C'est pas du spectacle. Je le disais, vous savez, il n'y a pas de recette miracle. Les gens qui promettent un coup de baguette magique pour mettre un terme au trafic de drogue et aux agressions violentes, ce sont des menteurs. C'est un défi colossal auquel les grandes métropoles qui attirent de plus en plus de personnes sont confrontées. Et je le disais, c'est une guerre d'usure. C'est une guerre de harcèlement. Et il faut des troupes régulières pour occuper le terrain et mener ces opérations musclées, ces démantèlements de points de deal qui sont attendus par nos concitoyens. Ces deals de rue qui pourrissent la vie finalement de nos concitoyens. Et l'arrivée de ces troupes fraîches va vraiment nous permettre, en tout cas moi, me permettre en tant que préfet de l'Hérault, de changer la donne. Et c'est historique parce que, en principe, vous savez, on utilise ces forces mobiles pour venir 2 ou 3 jours mener des opérations éclairs. Et après, elles repartent. Là, pour la première fois, le ministre de l'Intérieur a décidé, à titre expérimental, de nous confier sur plusieurs mois, donc de façon pérenne, ces troupes. Et moi, je peux vous dire que ça va changer la donne. Voilà.
Donc voilà, vous êtes une sorte de vitrine, d'avant-garde de ce qui va se passer.
Exactement.
Partout sur le territoire.
Et je peux vous dire qu'on sera surveillé de près, puisque Gérald Darmanin nous a demandé des rapports d'activité pratiquement hebdomadaires avec le détail des opérations menées. Et il compte vraiment sur nous. On a la chance d'avoir ces CRS et ces gendarmes mobiles. 160, c'est énorme. Vous savez, en 2020, sur la circonscription de Montpellier, j'avais 601 fonctionnaires de police. Aujourd'hui, j'en ai 648. Et ces 160 vont venir s'ajouter en plus. Donc c'est vraiment net. Ces 160 policiers nets. Avec de l'expérience. Vous savez, ce sont les policiers qu'on utilise dans les manifestations violentes. Ce sont des gens qui sont habitués aux situations difficiles et qui vont patrouiller dans les rues de Montpellier, dans les rues de Béziers, dans les centres-villes, au moment où les délinquants, possiblement, commettent leur forfait. Donc l'utilisation sera, croyez-moi, intensive. Et je pense que les concitoyens verront la différence.
Voilà, un nouvel emploi donc pour ces forces habituellement dédiées au maintien de l'ordre. 160 agents de force mobile en plus dans les semaines à venir à Montpellier et Béziers dans les rues des principales villes de l'Hérault. Merci Hugues Moutou d'avoir été en liaison avec Europe 1 ce matin. Et merci à Thibaut Huff qui assurait la liaison à vos côtés. Il est 7h20 sur Europe 1.
Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1.
Hello Work, la première plateforme française de recrutement vous présente l'édito éco.
Eh bien voilà, tout est dit. Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
Qui nous revient tout frais
avec
de ses vacances cet été. Nicolas, on a beaucoup parlé d'incendies, de canicules. La météo a fait l'actualité. Et la réponse qui est apportée, eh bien, elle est la suivante. Jet privé, piscine, spa, jacuzzi, etc.
Oui, alors on a en effet beaucoup parlé d'écologie sous la pression des événements, mais enfin on en a parlé de façon brouillonne, sans hiérarchiser les causes du réchauffement climatique, en évoquant peu la question de l'adaptation à ce réchauffement, et puis surtout sans prioriser les sujets. Alors évidemment, la NUPES a fait de la communication, notamment sur la question des jets privés, vous venez d'en parler, mais elle a traité la lutte des classes beaucoup plus que le climat. L'aviation d'affaires, ça représente à peu près 0,2% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Alors c'est vrai que ça augmente, mais je voudrais quand même rappeler, par souci de comparaison, que la production d'électricité, par exemple, au niveau mondial, représente 40% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. La NUPES parle des jets et pas du nucléaire. Hein. Vous voyez le problème et même, pardon, mais le niveau de malhonnêteté.
Il n'y a donc aucun problème, selon vous, avec les jets privés, les jets d'affaires ?
Pour regarder les choses de près, ça dépend. Aux États-Unis, ce n'est pas Bernard Arnault qui est conspué, c'est Taylor Swift, hein, qu'on adore, vous et moi, parce qu'elle utilise un jet privé. Son équipe a expliqué que l'achat d'un jet privé, c'était évidemment très coûteux et que le temps où elle ne l'utilisait pas, il était loué à d'autres personnes, éventuellement d'ailleurs à des États pour des opérations de rapatriement par exemple. Alors il y a un problème avec les jets privés qui est un problème d'exemplarité. Je ne vais pas vous dire que c'est un comportement génial que d'emprunter un jet privé pour faire 500 km et je suis le premier à prôner la sobriété. Mais comprenez bien Dimitri que cette logique d'interdiction et de décroissance, elle n'a pas de rationalité économique. Dans le domaine de l'aviation, l'enjeu c'est avant tout la décarbonation et on le fait et on va y arriver. L'industrie aéronautique en France, c'est 4500 entreprises, 285 000 salariés. C'est un secteur très, très performant, on fait plein de progrès, l'hydrogène, l'électrique, les carburants alternatifs. Dans le scénario le pire, on fait 35% d'économie de gaz à effet de serre en 2050, mais dans le plus optimiste, qui est à mon avis le plus probable, on arrive à la neutralité en 2050 malgré la croissance du trafic.
Alors, j'insiste quand même sur ce que vous nous dites. Vous dites qu'il n'y a pas de logique économique et écologique, de rationalité à toutes ces interdictions.
Ah, c'est pire que ça, il n'y a pas de logique démocratique non plus, hein, parce que si vous interdisez tout ce qui émet du CO2 ou ce qui consomme de l'eau sans hiérarchiser, vous allez tout interdire. Hein. D'ailleurs, on commence à la voir, hein, la logique. Hein. De quoi a-t-on parlé ? Des avions, des piscines, des jet-skis, des bateaux, des golfs, et puis on peut continuer. Hein. On entre dans une société d'interdits et de surveillance. Cette logique, elle est anti-économique, et donc antisociale, anti-écologique et anti-démocratique. Investir massivement dans les énergies décarbonées, c'est 1000 fois plus efficace, mais pour ces gens-là, ça pose un problème. Ça n'attise pas la lutte des classes, ça ne joue ni sur le ressentiment, ni sur la jalousie.
Merci beaucoup Nicolas Bouzeau, qu'on va retrouver 4 jours par semaine, du lundi au jeudi, dans Europe Matin.
Avec joie.
À 7h20. Merci à vous, à demain Nicolas, il est 7h23.
C'était l'édito Éco avec Hello Work, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à Hello Work. Plus d'infos sur le site ou l'application. Europe Matin.
Le journal permanent, l'essentiel de l'actualité, résumé par Alban Leprince sur Europe 1.
50 ans après, retour sur la Lune, début aujourd'hui de la mission Artemis. La capsule Orion part cet après-midi à 14h30, heure française, de Cap Canaveral en Floride. Pas d'astronautes à bord, c'est dans 3 ans que l'homme devrait à nouveau fouler le sol lunaire. Priorité pour le gouvernement à la rentrée, les économies d'énergie. Dès ce week-end, Elisabeth Borne, la première ministre, a annoncé des mesures, comme le déblocage d'un fonds vert pour les collectivités locale. Et puis un mot de Formule 1 avec évidemment la victoire hier de Max Verstappen. Le Néerlandais a triomphé au Grand Prix de Belgique et conforte sa place de leader.
Moi, président de la République,
allô Jacques-Marie.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Et un nouveau générique pour votre rendez-vous quotidien, votre plongée dans les archives d'Europe 1 en début d'après-midi sera lancée depuis Cap Canaveral en Floride. La capsule Orion, acte 1, scène 1, avant le retour de l'homme sur la Lune. Puis, si tout se passe bien, le premier départ vers la planète Mars dans quelques années, c'est la mission Artemis. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Et bien c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison. L'occasion était trop belle pour ne pas réentendre le jour où l'homme a marché sur la Lune pour la première fois, c'était un jeudi, le 24 juillet 1969, la mission Apollo 11.
Oui, 3 astronautes ont été sélectionnés, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Sur la Lune, il n'y a pas d'eau, pas de saison, pas de vent, et ce jour-là, la fusée qui décolle pèse 3000 tonnes.
Le feu jaillit devant nous, énorme orangé, énorme, la fusée s'élève doucement, 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 elle monte. Vous entendez les vivants ? Écoutez le bruit, il arrive ici et la Terre tremble !
Le module commence ensuite sa descente vers la Lune. Il va se poser dans ce qui s'appelle la mer de la tranquillité, une vaste plaine de basalte. À l'époque, les Américains et les Soviétiques se livrent une bataille dans l'espace. Et 7 ans plus tôt, en 1962, le président Kennedy disait ceci.
Je crois qu'il faut aller sur la Lune. Mais certains diront pourquoi la Lune ? Nous avons choisi d'aller sur la Lune dans cette décade et de faire d'autres choses. Non pas parce qu'elles sont faciles, mais justement parce qu'elles sont difficiles.
La NASA a un plan qui se réalisera donc 7 ans plus tard, en 69. Les astronautes voyageront à bord d'un module lunaire qui doit se poser sur la Lune.
Et le voilà justement qui se pose en juillet 69. Ce module, Neil Armstrong va poser le pied sur la Lune le dimanche 20 juillet.
Le pied d'Armstrong apparaît sur la caméra, il tourne, il marche, ça y est, on le voit de dos, on ne voit que ses jambes. À un moment, la Lune apparaît très blanche et sur Europe 1, Julien Besançon raconte.
Il est en bas de l'échelle, je le vois maintenant de profil. L'empreinte de mon pied, dit-il, est seulement de 2 ou 3 cm de profondeur, l'empreinte du premier pas d'un homme sur la Lune.
Il a posé son pied sur la Lune.
Et il vient de prendre avec la main...
Il marche.
Vient de prendre avec la main... Des cailloux lunaires.
Il vient de prendre avec la main des cailloux lunaires. Et on entend alors les mots célèbres de Neil Armstrong.
C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité.
Il passe 2h30 sur la Lune, puis l'équipage repart avec 20 kilos de roches. Le retour vers la Terre dure ensuite 3 jours. Et après eux, 10 autres astronautes marcheront sur la Lune.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Allez, à suivre dans Europe Matin dans le prochain journal. Est-ce que 4 jours, ça suffit pour devenir prof? Les formations express ont lieu en ce moment même. Reportage dans quelques minutes, 7h27.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Et à la une de votre journal, ils n'ont pas de diplôme et pourtant dans 4 jours, ils seront face aux élèves. Des centaines de contractuels sont recrutés en ce moment par l'éducation nationale. Ils suivent des formations pour apprendre les rudiments du métier. Reportage dans un instant. La colère du président de l'antenne SOS Médecins de Mulhouse qui suspend ses interventions jusqu'à ce matin. L'un des praticiens de SOS Médecins a été agressé ce week-end. Et puis, c'est notre meilleur espoir, la Française Caroline Garcia sur le terrain de l'US Open à partir d'aujourd'hui et c'est une renaissance pour la joueuse. Le journal vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. 4 jours pour devenir professeur. Voilà qui s'appelle une formation express. Elle est proposée en ce moment aux contractuels avant la rentrée scolaire. Des hommes et des femmes qui n'ont pas de diplôme d'enseignement. Et pourtant, ils seront 3000 face aux élèves dès jeudi. L'école confrontée à une crise de recrutement inédite, notamment dans l'académie de Créteil en région parisienne. Louis Salé a rencontré ses apprentis professeurs.
Le bon professeur vérifie le travail à faire.
Ils sont une centaine dans l'amphithéâtre de l'université de Créteil à écouter le doyen des inspecteurs, Charles Naïm.
Il instaure une ambiance de travail et de détente.
Ses conseils ont plu à Jean-Philippe qui enseignera l'éco-gestion en filière STMG. Il est ancien contrôleur de gestion.
Pour l'instant, ce matin, c'était très intéressant, très synthétique. Je dirais que c'est mieux que rien. Voilà, donc on va prendre ces 4 jours. C'est vrai que je suis confiant.
Laurence, ancienne éducatrice de jeunes enfants, n'est pas rassurée. Elle est future prof de sciences techniques et médico-sociales en bac professionnel.
Ah, c'est un peu express là, faut être honnête. Pour l'instant, c'est pas ça qui me rassure dans mes missions, dans mon rôle. Enfin bon, même si on est tous dans le même bateau, on commence tous, on sait pas quand et on sait pas où, voilà.
À quelques jours de la rentrée, ils ne connaissent toujours pas leur affectation, comme John, professeur d'espagnol venu de Colombie.
On attend. Je connais pas le système français, il faut le dire. J'ai déjà donné des cours dans mon pays, aussi en Espagne, mais le contexte est différent. Je sais pas comment faire, quel nombre d'examens ou de devoirs il faut mettre en place.
Outre ces 4 jours de formation dont certaines heures sont organisées par discipline, les néo-profs bénéficieront de 3 autres jours dans l'année.
Le reportage de Louis Salé, 7h32. L'énergie est notre avenir, économisons-la. On connaît tous forcément ce célèbre slogan. Cela pourrait être aussi un bon résumé du message d'Elisabeth Borne aux entreprises.
En effet, la Première Ministre doit s'exprimer en début d'après-midi à l'occasion de l'université d'été du MEDEF, la REF. Un discours où Elisabeth Borne doit fixer un objectif, une baisse de la consommation de 10% d'énergie avant le début de l'automne.
Oui, et en plus, ces entreprises sont confrontées donc à la crise de l'énergie, aussi à l'inflation, une accumulation et des dépôts de bilan en cascade. 19 000 entreprises ont fermé au premier semestre. C'est 30% de plus par rapport à l'année dernière. Résultat d'une enquête Altares qu'on vous révèle en exclusivité sur Europe 1 avec le Figaro.
Des entreprises qui sont aussi confrontées à un manque de main-d'œuvre, d'où cette initiative dans le nord de la France, un bus itinérant pour recruter des intérimaires.
Oui, proximité, c'est l'idée de cette agence d'intérim spécialisée dans l'industrie automobile. La camionnette a fait étape au marché de Bouchain, près de Valenciennes. Notre correspondant, Maximilien Carlier, y était pour Europe 1.
C'est une fourgonnette blanche et rouge, transformée en agence d'intérim. Elle est située à côté du fromager et du boucher. Devant, il y a une file de chômeurs. Christophe, 40 ans, sans emploi depuis 5 mois.
Moi, ça nous évite de prendre notre propre véhicule, pas utiliser beaucoup de gasoil, vu qu'au prix du carburant en ce moment, c'est vrai que pour les chômeurs, c'est pas évident.
Lui recherche un boulot dans l'automobile. Cariste, agent de production, il dépose son CV sur une table haute, puis entretien rapide avec Noura, responsable de l'agence d'intérim Synergie.
Si tout est OK, vous démarrez dans la foulée pour 4 mois de mission.
D'accord, okay.
C'est agréable d'avoir des candidats comme ça, échanger avec eux. Ce sont parfois des personnes qui n'oseraient pas cliquer, envoyer leur CV directement.
Chaque jour, elle récupère d'ailleurs une dizaine de CV devant cette camionnette, peut-être des futurs salariés de l'usine Toyota Valenciennes. Nicolas Fayol, directeur des ressources humaines.
Ça montre qu'il y a une demande, ça donne l'opportunité d'aller chercher les candidats dans des endroits éloignés, enclavés par rapport au grand flux du monde du travail aujourd'hui, qui consiste à aller dans des agences, qui consiste à aller en centre-ville.
La proximité, c'est peut-être une des solutions pour recruter recruter, insiste-t-il, alors que le Valenciennois compte le taux de chômage le plus élevé dans les Hauts-de-France. Bouchain, Maximilien Carlier, Europe 1.
7h34, un généraliste de SOS Médecins agressé à cause d'un délai d'intervention, a priori trop lent. C'est en tout cas ce que lui reproche l'homme qui l'a visé avec un fusil à billes ce week-end.
Et oui, c'était lors d'une consultation à domicile dans le secteur de Mulhouse. L'agresseur a mis en joue le médecin en direction de la tête, puis au niveau du thorax, avant de le menacer de mort.
Oui, le praticien s'en sort avec des hématomes à la cuisse. Par solidarité, SOS Médecins Mulhouse a suspendu ses visites jusqu'à 8h ce matin. Frédéric Trinizewski, le président de l'association, redoute un prochain drame.
L'ensemble de l'équipe a été bien sûr extrêmement choqué d'apprendre ça. Il y a de temps en temps des agressions verbales, des petites choses, mais là, cette agression a été d'une violence extrême, puisque c'est non seulement des menaces de mort, mais c'est une arme, et c'est même un tir avec une arme. Effectivement factice, mais ça reste un tir quand même. Donc, on se doute bien, il n'y aura pas de possibilité d'avoir un policier dans la voiture de chaque médecin, ou de porter nous un gilet pare-balles. Notre revendication aujourd'hui, c'est surtout d'appeler au civisme, d'appeler au respect des médecins. Un médecin qui intervient à domicile, c'est une chance et donc il faut qu'il soit respecté.
Frédéric Trinizewski, président de SOS Médecins Mulhouse, a noté que le suspect a été interpellé et sera présenté cet après-midi à un juge en comparution immédiate.
Alors, ce sont les derniers jours pour préparer le cartable de votre enfant avant la rentrée ce jeudi. On parlait des enseignants il y a quelques instants. Trousse, cahier, mais alors cette année, bonne nouvelle, il n'y a pas besoin de masque.
Et non, pas de masque obligatoire, des cours en présentiel et aucune restriction pour les activités sportives. Une première depuis le début de l'épidémie. Covid, 18 000 nouveaux cas chaque jour, un chiffre qui dégringole même depuis le début de l'été.
En revanche, il y a un pays qui maintient coûte que coûte la politique zéro Covid, c'est évidemment la Chine. Nous partons tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Lebelzi, vous êtes notre correspondant à Pékin, où le quotidien tient tout simplement en trois mots, tracé, dépisté, isolé. On imagine forcément la lassitude de la population. Comment réagissent les Chinois face à ces restrictions qui s'éternisent ?
Alors de plus en plus mal, hein. Ça fait quand même 2 ans et demi que le Covid nous gâche la vie ici, les frontières sont quasiment fermées, les Chinois ne peuvent plus demander de passeport pour sortir et donc faire du tourisme à l'étranger. Écoutez, ces quelques témoignages.
Les gens n'ont plus vraiment peur du Covid, ils ont peur d'être enfermés chez eux.
On n'arrête pas de nous confiner, avant j'avais ma propre société, mais à cause du Covid, les affaires vont mal.
Voilà ce qui a été présenté au début de l'épidémie comme une victoire sur le Covid, a vite tourné à la dictature sanitaire, avec des conséquences dramatiques pour l'économie et surtout aucune perspective de réouverture dans les prochains mois.
Sébastien Lebelzi, correspondant d'Europe 1.
Voilà, est-ce qu'il ne vous dit pas, Sébastien, c'est qu'il a subi 50 tests PCR dans la rue pendant...
En un seul été, oui.
Voilà, en un seul été. Il a les naseaux un peu rougis, notre Sébastien. 7h37 sur Europe 1.
Ce sera peut-être le dernier match de sa carrière. Et quelle carrière ! Serena Williams joue ce soir à l'US Open. Elle prendra sa retraite après la compétition qui démarre aujourd'hui à New York.
Alors, en revanche, elle est bien loin de tirer sa révérence. Elle, c'est Caroline Garcia, la française, 28 ans, fait partie des favorites du tournoi.
Et on a envie d'y croire face à sa forme étincelante. Colin Abgral, on peut le dire, c'est l'histoire d'une renaissance.
Oui, véritablement, il n'y a pas une joueuse sur le circuit féminin plus en forme que la française. Et les statistiques le confirment, Caroline Garcia reste sur 26 victoires lors de ses 30 derniers matchs. Une confiance retrouvée grâce notamment à son entraîneur Bertrand Perret, choisi par la Parisienne en début d'année pour prendre la succession de son père Louis-Paul, qui la suivait depuis 2012. Et force est de constater que ce changement est bénéfique. 3 tournois remportés sur les 3 derniers mois, avec en point d'orgue le tournoi WTA 1000 de Cincinnati, qui l'a vu éliminer au passage 3 membres du top 10 mondial, sa première victoire à ce niveau depuis 5 ans. Il y a comme une impression que les planètes s'alignent pour la Française, qui est désormais dans le top 20 mondial aux côtés des meilleurs, classement qu'elle n'avait plus connu depuis 2019. Caroline Garcia impressionne ses fans comme ses pairs et semble armée comme rarement auparavant pour tenter d'aller chercher le plus grand titre de sa carrière. Il faudra faire aussi bien, voire mieux qu'à Cincinnati, et cela passera d'abord par une victoire pour son entrée en lice aujourd'hui face à la 90e joueuse mondiale, la Russe Camille. Emilia Rakimova.
Colin Abgral du service des sports d'Europe 1. Dimitri, bon, j'ai décidé de partir sur de bonnes bases pour cette nouvelle saison. Je parle de musique.
Ah oui,
bien sûr,
ça.
Voilà, qui peut-être devrait nous mettre enfin d'accord. Alors, vous ne le voyez pas, chers auditeurs, mais Dimitri Pavlenko maîtrise à la perfection la chorégraphie donc de Thriller, roi incontesté de la pop, bien sûr. Michael Jackson qui aurait fêté ses 64 ans aujourd'hui, 29 août 1958 pour son anniversaire. C'est votre jeunesse, ça, Dimitri, non ? Elle a 40 ans, cette musique, cette
année.
Mais
oui, mais c'est les années 80, vous savez, décennie dorée pour la musique, moi, je trouve... Je suis critiqué quand je dis ça, mais
non,
j'y crois.
Non, je suis d'accord avec vous. Pour moi, Michael Jackson, c'est la légende.
Alors, on est d'accord. Michael Jackson, on achète ensemble. Merci beaucoup, Roman Hockey. C'était votre journal sur Europe 1. Il est 7h39. Oh, du beau monde qui arrive en studio. Nicolas Caro va nous parler littérature. Héloïse Goua va nous parler série, dans histoire de pouvoir, de sang et de dragon. Et Vincent Hervouette arrive pour l'international. Vincent Trémollet de Villers du Figaro pour la politique. À tout de suite.
7h, 9h,
Europe Matin.
Il est 7h42 sur Europe 1, le journal permanent Alban Le Prince.
Après avoir annoncé ce week-end le déblocage d'un fonds vert d'€1,5 milliard pour les collectivités locales, Elisabeth Borne a rendez-vous avec les patrons aujourd'hui devant le MEDEF. La première ministre sonnera la mobilisation générale en matière d'économie d'énergie. Une enquête est ouverte. Le footballeur champion du monde 2018, Paul Pogba, au cœur d'une incroyable affaire de tentative d'extorsion en bande organisée. Il affirme avoir été menacé par un groupe d'hommes armés, son frère et des amis d'enfance, selon lui, qui lui réclamaient 13 millions d'euros. Et puis c'est une guerre d'usure. Déclaration ce matin sur Europe 1 d'Hugues Moutou, préfet de l'Hérault, qui réagissait à l'arrivée de 160 CRS à Béziers et Montpellier au mois de septembre pour lutter contre le trafic de stupéfiants.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
7h43, Europe 1 aime la culture. Et la preuve, c'est que dans un instant, vous allez retrouver nos deux chroniqueurs, Nicolas Caro pour les livres et Héloïse Goua pour les séries. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Dimitri.
Bonjour Dimitri, bonjour tout le monde.
Mais d'abord, parole aux anciens. Bonjour Vincent Hervouette.
Ça commence bien. Bonjour
nouvel horaire
Dimitri
pour...
Pavlenko.
Je disais nouvel horaire pour l'édito international.
Oui, faisons fi ça. Hein.
Voilà, vous nous parlez ce matin du retour des Américains sur la Lune avec le lancement de la mission Artemis, le décollage aujourd'hui de la fusée géante SLS, tout à l'heure du Centre Spatial Kennedy, sans astronautes à bord, du moins pour l'instant. Question, à quoi ça va servir, Vincent ?
Ben en vrai, à rien. C'est beau, c'est précieux, c'est symbolique. C'est un peu comme la monarchie au Royaume-Uni. L'Angleterre a fêté avec faste le jubilé de la reine. Bien, l'Amérique célèbre les 50 ans de la mission Apollo. La même ferveur, la même fierté nationale, la même foule enthousiaste qui attend pendant des heures à Londres, c'est pour voir passer le carrosse royal. Sur les plages de Floride, bien, c'est la nuit à bivouaquer pour voir au loin décoller l'engin haut de 30 étages. Il y a la nostalgie d'un âge d'or, le souvenir des 60s, et puis le besoin de montrer au monde et de se prouver à soi-même qu'on reste capable de décrocher la Lune. Ils ont donc réveillé la NASA, qui somnole depuis des décennies, et ils repartent à la conquête de nouvelles frontières, la Lune, puis Mars. Dans 2 ans, il y aura des astronautes à bord. Dans 4 ans, ils marcheront sur la Lune, c'est promis. Il y aura même une femme, la belle affaire, et aussi un nom blanc dont le genre n'est pas précisé, c'est la grande nouveauté. Apollo redémarre, mais c'est Artemis, sa sœur jumelle dans la mythologie grecque. L'époque a changé.
Alors, le budget de cette mission est hollywoodien, près de 100 milliards de dollars.
Mais ça n'a pas de prix. Pour impressionner le monde, les États-Unis viennent de passer 20 ans en Afghanistan en y dépensant 300 millions de dollars par jour, et tout ça pour rien. L'ancien président Hamid Karzai disait que la guerre des Américains, c'était juste une question de standing, like to buy a Porsche. La mission Artemis, c'est un peu pareil, like to buy a Lamborghini ou a Ferrari, avec Joe Biden au volant.
Mais c'est quand même Donald Trump quand même qui a relancé ce projet de retour sur la Lune, avec l'idée de relever le défi lancé par les Chinois, qui eux aussi développent un programme spatial de premier plan.
Oui. Parce que Apollo, c'était la victoire finale dans la guerre froide avec les Soviets. C'était la réponse éclatante au premier missile intercontinental lancé par Moscou, au premier satellite, au le Spoutnik, à Gagarine, le premier cosmonaute. Autant de succès russes qui ont été vécus aux États-Unis comme des sortes de Pearl Harbor technologiques. C'est pour ça qu'Eisenhower a créé la NASA. Aujourd'hui, c'est toujours Star Wars, mais le duel est avec Pékin. Joe Biden vient de créer, en plus de l'armée de terre, de la marine, de l'aviation, l'USP Force en face de la force de soutien stratégique chinoise. Les Chinois aussi veulent marcher sur la Lune et avant la fin de la décennie, puis explorer Mars. Question de standing, encore et toujours. Mais surtout, le développement de leur capacité anti-satellite est un axe majeur de leur politique de défense, avec toutes sortes de dispositifs de guerre électronique, de lasers à haute énergie, d'armes à micro-ondes, de satellites de proximité qui patrouillent, invisibles comme des sous-marins de l'espace, de quoi aveugler neutraliser les systèmes d'armes américains, car les forces conventionnelles, sans les technologies spatiales, sont aveugles, sourdes et paralysées. Les Chinois ne sont d'ailleurs pas les seuls à avoir détecté le défaut de la cuirasse. Trois mois avant d'envahir l'Ukraine, les Russes ont détruit un de leurs propres satellites avec un missile balistique, histoire de montrer à tous leur capacité de nuisance. Le jour du déclenchement de l'offensive, ils ont aussi brouillé un satellite de télécom américain. Le champ de bataille s'étend bien à l'espace. Les Américains l'ont dominé. Ils n'y renoncent pas. Et la preuve ce matin... Elle la preuve qui pèse 2600 tonnes.
Merci beaucoup Vincent Hervoit. Il est 7h46.
Dimitri Pavlenko.
Votre matinale info sur Europe 1.
2600 tonnes, un peu plus léger avec vous Nicolas Carreau. Rebonjour.
Rebonjour.
Nicolas, les livres, on va vous retrouver tous les matins. Un jour un livre, lecture garantie. Et tous les lundis aussi, c'est Héloïse Goy qui vous accompagnera. Bonjour Héloïse.
Bonjour Dimitri.
Dans un instant, vous nous parlez d'une série. Alors un indice, ça vole et ça crache du feu. Mais d'abord Nicolas Carreau, vous ouvrez cette saison littéraire avec le nouveau roman de Miguel Bonnefoy. Ça s'appelle L'Inventeur. Hein.
C'est bien ça. Chez Rivage, est-ce que vous connaissez Augustin Mouchot?
Augustin qui?
Voilà, exactement. Wow. Augustin Mouchot a complètement disparu de l'histoire avec un grand H. Comme l'écrit Miguel Bonnefoy à la première page du livre, son visage n'est sur aucun tableau, sur aucune gravure, dans aucun livre d'histoire. De toutes les archives de son siècle, la France ne conserve de lui qu'une seule photographie. Son existence n'intéresse ni le poète, ni le biographe, ni l'académicien. Sa maison n'est pas un musée. Ses machines sont à peine exposées. Le lycée où il fit ses premières démonstrations ne porte pas son nom.
Alors ces machines, c'est donc un scientifique.
Mieux que ça, c'est un inventeur, comme l'indique le titre du roman. C'est l'homme qui a trouvé le moyen à la fin du 19e de transformer la lumière du soleil en énergie pour alimenter une machine à vapeur. Carrément le précurseur de l'énergie solaire. Mais à l'époque, on pense charbon, bien oui. Plus rentable. Et bien entendu, on ne se pose absolument pas la question de la pollution, ça n'existe même pas. Mais enfin, c'est intéressant comme invention. Alors Augustin Mouchot est quand même invité à présenter sa machine devant l'empereur. Et il y a cette scène géniale qui est décrite dans le roman, où, avec beaucoup de trac, il fait une démonstration devant Napoléon III. Mais malheur, quand vient son tour, les nuages masquent le soleil. Mince. Et la pluie commence à tomber.
Bon, l'effet
évidemment, ça ne marche plus. Mais, exactement. Mais il y aura d'autres occasions, notamment à l'exposition universelle. Il y rencontre l'inventeur de l'ancêtre du réfrigérateur. Et en couplant les deux machines, ils créeront de la glace avec le feu du soleil.
Des alchimistes. Mais c'est un roman ou c'est une biographie?
C'est l'équivalent d'un biopic, si vous voulez. Miguel Bonnefoy invente certaines situations, mais il se base sur les archives. C'est d'ailleurs en les fouillant qu'il a pensé que c'était un personnage incroyable de roman. Miguel Bonnefoy.
Après avoir fait des recherches dans les différentes archives municipales de Tours, de Dijon, d'Aix ou celles de Pierrefitte à Paris, eh bien, il se trouve que j'ai découvert des centaines d'articles de presse sur Mouchot, sur son invention, sur sa vie, au point de me rendre compte qu'il n'était pas du tout un inconnu à l'époque, mais un scientifique très prometteur, très, très connu, reçu par l'empereur, qui aurait pu devenir une sorte d'Edison, une sorte de Tesla, une sorte de Buffon, une sorte de Lavoisier.
Et Miguel Bonnefoy lui rend ses lettres de noblesse et sa grandeur, grandeur dans le sens de gloire uniquement, parce que Augustin Mouchot, et il est très très bien décrit dans le roman, était chétif et maladif au point qu'il posait à côté de son lit un petit papier avant de dormir sur lequel était écrit « Bien que j'en ai l'air, je ne suis pas mort ». Comme un symbole de ce qui va à mon avis se passer avec ce livre, Augustin Mouchot va renaître, sortir des limbes de l'oubli grâce au style flamboyant de Miguel Bonnefoy.
Voilà, les ratés de l'histoire. L'inventeur, donc, signé Miguel Bonnefoy, c'est chez Rivage. Demain, encore un roman. Hein.
Oui, et aussi de l'histoire. Roman, histoire mêlée, oui. Nous parlerons des sœurs Papin, ce fait divers des années 30. Vous savez, les deux bonnes qui ont assassiné leur patronne en leur arrachant les yeux.
Croustillant. Merci Nicolas Carreau. Allez, en cette rentrée, Héloïse Goy, vous nous parlez, vous, d'une série très attendue dans le monde entier. Indice, disais-je, ça crache du feu.
Oui, vous aurez un autre indice après. 10 millions, c'est le nombre de téléspectateurs américains qui étaient devant leur télévision la semaine dernière pour le lancement de cette série. C'est un record historique pour la chaîne HBO. Alors voilà un autre indice pour comprendre la raison de ce succès. Je vois votre visage, Dimitri, vous reconnaissez forcément le générique de Game of Thrones. Eh, oui. Eh bien ça y est, House of the Dragon pointe enfin le bout de son nez. Il s'agit du préquel de Game of Thrones, c'est-à-dire que l'intrigue se déroule près de 200 ans avant la première saison du Trône de Fer. Ce qui veut dire qu'on peut tout à fait regarder House of the Dragon sans connaître le contexte. Alors j'imagine bien que les fans de Game of Thrones ne m'ont pas attendu pour courir voir les deux premiers épisodes de ces spin-offs.
Le second est passé cette nuit, hein, sorti c'est en France.
Voilà, hein. Pour les plus insomniaques, ils l'ont regardé aussi.
Mais moi, j'ai eu la chance de voir pour vous 6 épisodes de House of the Dragon et je peux vous dire que la série monte en puissance. Ça vaut vraiment le détour.
Alors, ça parle de quoi cette série exactement, Héloïse ?
Alors, les épisodes nous racontent les origines de la maison Targaryen qui règne sur le continent de Westeros et qui doit son pouvoir, comme le titre de la série l'indique, au dragon qu'elle possède. Viserys est le roi de cette famille. Et comme il n'a pas encore de fils, eh bien il cherche déjà celui ou celle qui lui succédera au trône de fer. Parce que oui, c'est déjà bien de ce trône dont on parle. Et alors parmi les candidats, il y a sa fille Rhaenyra. C'est une princesse féministe avant l'heure qui ne tient pas tellement à se marier. Même si ça ne colle pas très bien avec ce que lui inculque sa mère qui s'apprête à accoucher.
Toi aussi, tu seras couchée dans ce lit bien assez tôt, Rhaenyra. L'inconfort est notre façon de servir le royaume.
Je préfère servir comme chevalier et voler vers la bataille et la gloire.
Nous avons des entrailles royales, toi et moi. Notre champ de bataille est le lit de nos couches. Nous devons y faire face avec la plus grande bravoure.
C'est joliment écrit.
Eh oui, et alors l'autre candidat au trône, c'est Daemon, c'est le frère du roi. Lui, c'est un assoiffé de pouvoir qui aime se battre. C'est un peu le méchant de la série.
C'est vrai que le nom...
Oui, n'augure rien de bon. Et c'est lui qui va faire couler pas mal de sang. Alors un petit conseil, ne vous attachez pas trop au personnage parce qu'il faut se préparer à en voir mourir un paquet dans des conditions pas forcément idéales. Hein. Et ça, ça fait partie des très nombreux points communs avec Game of Thrones. En plus des décors épatants, des combats épiques, eh bien il faut le dire, le sexe et la violence sont toujours omniprésents. Mais House of the Dragon, c'est aussi une série sur une tradition patriarcale qui commence doucement à vaciller avec des femmes très déterminées. Le casting est excellent, certains visages vous seront familiers si vous avez vu des séries comme Peaky Blinders ou The Crown. Alors pour toutes les personnes, et je sais qu'elles sont nombreuses, qui ont été très déçues par la dernière saison de Game of Thrones, je vous assure, cette série a de quoi vous réconcilier avec l'univers imaginé par George R. R. Martin.
Alors c'est à voir où, House of the Dragon donc ?
Alors ces 2 épisodes, vous l'avez dit, sont disponibles pour le moment sur OCS et MyCanal. En tout, il y aura 10 épisodes d'une heure.
Merci beaucoup Héloïse Gouin, 7h53 sur Europe 1.
Europe Matin.
Le journal permanent Alban Le Prince.
Les patrons de plus en plus nombreux à mettre la clé sous la porte, plus 30% sur le premier semestre 2022 par rapport à l'année dernière. 19 000 ont jeté l'éponge, résultat d'une enquête révélée par Europe 1 et Le Figaro ce matin. Le MEDEF se réunit aujourd'hui pour la rentrée des patrons. Elisabeth Borne y prononcera un discours. La première ministre demande aux entreprises de faire un effort sur leur consommation d'énergie. Et puis une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en route ce matin pour la centrale ukrainienne de Zaporijjia. Nous devons protéger la sécurité de l'Ukraine et de la plus grande centrale d'Europe, déclare sur Twitter son directeur général.
Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1.
L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro, la sécheresse, les chaleurs extrêmes, les orages cataclysmiques de cet été imposent de façon évidente le thème de la rentrée politique du gouvernement, le dérèglement climatique. On le retrouve dans les mots crépusculaires du chef de l'État sur la fin de l'abondance, comme dans les interventions de rentrée d'Elisabeth Borne.
Et oui Dimitri, les herbes jaunies de Normandie, les forêts calcinées de Gironde, les rivières à sec d'Italie nourrissent un peu plus encore l'inquiétude du grand réchauffement. Inquiétude légitime et partagée jusqu'au moment, et nous y sommes, où le vert devient la couleur commode pour repeindre calculs politiques et obsessions idéologiques.
Avez-vous des exemples ?
Par exemple, quand Clément Beaune, le ministre des Transports, s'en prend au jet privé, est-ce le souci écologique qui prime ou la lutte des classes version Canal Saint-Martin ? Quand la députée écologiste Sandrine Rousseau explique dans son jargon inimitable que ce sont les hommes, les garçons, forgés par le capitalisme, par le colonialisme et par le patriarcat, qui sont les vrais coupables de la crise écologique, a-t-elle en tête le soin du monde ou la passion revancharde qui caractérise ce qu'elle appelle l'écoféminisme. Ou encore quand des élus de la NUPES font le procès de l'entrecôte ou de la piscine privée, on est plus proche du mépris social, celui de classe urbaine dominante vis-à-vis de la France périphérique, que de l'ode à la beauté de la nature. L'écologie, dès lors, devient un signe extérieur de vertu, une catégorie morale, et les prédicateurs s'en donnent à cœur joie pour dire, mon cher Dimitri, absolument n'importe quoi.
Mais tout de même, Vincent, l'état d'urgence écologique, est-ce que ça n'exige pas, comme l'état d'urgence sanitaire hier ou sécuritaire au moment des attentats, est-ce que ça n'exige pas des décisions exceptionnelles ?
Alors dans ce cas, il faut montrer une cohérence implacable. Sinon, on bascule dans ce que l'on avait appelé pendant le Covid l'absurdistan. Vous vous souvenez, c'est quand Jean Castex ouvrait les stations de ski mais fermait dans le même temps les télésièges. Que voyons-nous aujourd'hui ? Un président qui pleure la fin de l'abondance et signe sans cesse des chèques de consommation. Un gouvernement qui, sur fond de guerre en Ukraine, présente un plan sur les énergies renouvelables en oubliant que les carences de ces mêmes énergies sont compensées par le gaz dont Poutine a fait une arme contre nous. Des écologistes antinucléaires qui s'en prennent au barbecue pendant que s'ouvrent dans toute l'Europe des centrales à charbon. La liste de ces contradictions, croyez-moi, pourrait durer indéfiniment.
Et ces contradictions, est-ce qu'elles peuvent avoir des conséquences politiques ? On songe évidemment à la taxe carbone, aux gilets jaunes.
Alors prenons un citoyen ordinaire. Il paye tout de plus en plus cher Il vit dans un climat de suspicion dans les moindres détails. Il entend des élus éminents comme Pascal Canfin, eurodéputé de la majorité, évoquer à terme la possibilité d'une police de la sobriété énergétique. Alors on va faire le point, Dimitri, avec notre citoyen ordinaire. Sa maison mal isolée, coupable. Sa chaudière au fioul, coupable. Le moteur thermique de sa voiture, coupable. S'il s'inquiète, on lui explique que la fin du monde est plus importante que ses problèmes de fin de mois. Avouez que c'est intenable socialement. La vérité est que faire reposer sur la transition écologique à la fois la pénurie énergétique et l'inflation galopante est le meilleur moyen de rendre à terme l'écologie impopulaire. Emmanuel Macron va devoir choisir, après la fin de l'abondance et la fin de l'insouciance, on attend la fin de l'incohérence.
Merci Vincent Trémollet de Villers, c'était votre premier édito à l'antenne d'Europe 1. Bah, félicitations,
merci,
ça s'est bien passé. Et demain c'est Alexis Brézet avec qui vous alternerez donc toute la semaine, pendant toute la saison. Donc je vous dis donc à mercredi, cher Vincent. Et je signale la une du Figaro ce matin, Macron cherche le cap d'une écologie de crise, le cap vert donc. Pardonnez le jeu de mots. Quel sera... On en parlera à 8h13 avec justement l'invité de Sonia Marbouk ce matin. Ce sera Jacques Attali. Et puis plusieurs nouveaux rendez-vous dans la prochaine heure. Je vous les présente dans quelques minutes. Il est 7h57 sur Europe 1. Excellente journée en ce lundi 29 août sur Europe 1.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Question à la une de l'actualité. Ce matin, l'Hérault est-elle la nouvelle plaque tournante des trafics de drogue et de la délinquance? De nombreux quartiers de la ville ainsi que de Béziers sont de plus en plus gangrénés. Renfort de 160 CRS attendus sur place dans les jours qui viennent. Les explications du préfet de l'Hérault dans ce journal et de notre reporter Thibaut Hu qui revient de Montpellier. La fin de l'abondance pour les entreprises. Elisabeth Borne demande aux chefs d'entreprise de réduire leur consommation énergétique de 10%. La première ministre s'exprimera devant eux aujourd'hui à l'occasion de la rentrée du MEDEF. Les crises successives qui mettent à terre de nombreuses PME, la preuve, sur les 6 premiers mois de l'année, le nombre de patrons ayant mis la clé sous la porte est en hausse de 30% par rapport à l'an dernier. Enquête que vous révèle Europe 1 et Le Figaro ce matin. Et puis c'est l'événement de la rentrée sur Europe 1, Europe 1 Sport. Tous les soirs, 20h, 23h30, tous les grands moments de sport en direct. Interview, débats enflammés autour de Lionel Rosso avec Jean-François Pérez et Jacques Vendroux. Ils seront avec nous dans quelques minutes à 8h13. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour à vous Dimitri, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ainsi que nos auditeurs. Alors ce matin au programme énergie, inflation, ressources de notre planète. Il y a un an, écoutez bien, il alertait sur une inflation brutale et discontinue. L'économiste et essayiste Jacques Attali en appelle ni plus ni moins à une économie de guerre. Alors le sursaut, c'est maintenant. Il est notre invité après le journal.
À tout à l'heure. Mais d'abord le journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des dealers au pied des immeubles qui trafiquent, qui font la loi, qui contrôlent les allées et venues. À Montpellier et à Béziers, beaucoup d'habitants n'en peuvent plus. L'impression de vivre dans des zones de non-droit. Bonjour Thibaut Hu.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Montpellier où vous avez enquêté pour Europe 1 sur cette situation insoutenable. On vous retrouve dans un instant, mais avant, je vous propose d'écouter le préfet de l'Hérault. Hugues Moutou était l'invité d'Europe 1 il y a quelques instants. Il confirme que 160 CRS vont être déployés à Montpellier et à Béziers afin de lutter contre le trafic de stupéfiants, la mère des batailles selon lui.
La drogue, c'est de l'argent. C'est ce qui va entretenir tout un réseau de criminalité et de délinquance à travers le centre-ville. On a une délinquance particulière dans ces métropoles du Sud, c'est la délinquance étrangère. On a une surreprésentation des étrangers dans les actes de délinquance à Montpellier, encore plus qu'à Béziers d'ailleurs.
De quel ordre cette surreprésentation?
On a une personne interpellée et placée en garde à vue sur deux. Qui est de nationalité étrangère, avec une représentation très importante de certaines nationalités, marocaines ou algériennes.
Hugues Moutou, le préfet de l'Hérault. Thibaut Hu, on vous retrouve en direct de Montpellier pour Europe 1. Ces trafics, vous les avez vus de vos propres yeux?
Oui, tout à fait. Et pour le constater, je me suis rendu dans l'un des quartiers les plus défavorisés de Montpellier, celui des Cévennes. J'ai pu observer d'anciens points de deal, à peine démantelés, des trafiquants stupéfiants en main, des ruelles cul-de-sac où la police ne va plus. Et j'ai rencontré des riverains résignés, une spirale infernale, m'a confié Fred. Il habite ici depuis 15 ans et parfois, quand il sort de chez lui, il a la boule au ventre.
C'est pas normal d'avoir des rodéos, c'est pas normal d'avoir des points de deal à tout va. Ça m'agace profondément. Je peux pas aller en ville sans regarder derrière moi. Tu sors ton portefeuille, t'es pas sûr. J'ai pas cette tranquillité d'esprit qu'on avait il y a quelques années. On se sent même pas respecté, on se sent pas du tout écouté, on se sent vraiment laissé à l'abandon.
Et les riverains demandent plus de moyens financiers pour les associations du quartier, mais aussi et surtout plus de patrouilles de police.
trafic. Trafic dans les quartiers, de la délinquance aussi, dans le centre-ville, hein, Thibault, hein.
Oui, tout à fait, notamment rue de la Gare, mais surtout place de la Comédie, l'hypercentre de Montpellier. Le soir, des groupes de jeunes s'aiment parfois la zizanie, et ce sont les restaurateurs qui subissent. Et Dayat, serveur dans un café de la place, témoigne de conditions de travail très rudes.
Quand ils arrivent ici, ils nous parlent super mal. Des fois, ils ne payent même pas. Des fois, ils arrivent aux terrasses, ils s'assoient. Après, ils sortent une bouteille de vodka, ils le mettent sur la table, on ne peut rien faire. Voilà. Pour ces raisons, on a pris un videur tous les vendredis et samedis soirs parce que c'est trop chaud. Franchement, en vrai, j'ai peur.
Une insécurité hein, qui fait fuir les clients, souvent des touristes, mais aussi, bien sûr, les passantes. Celles que j'ai pu rencontrer témoignent presque à l'unanimité de mauvaises expériences et évitent donc le soir de traverser seul le centre-ville.
Merci Thibault Hue pour cette enquête en direct de Montpellier pour Europe 1.
Alors la sécurité, justement, c'était l'un des grands thèmes des vacances. On se souvient de Gérald Darmanin sur tous les fronts pour la rentrée. C'est Elisabeth Borne hein, qui tient l'affiche sur les questions énergétiques.
Et son combat, c'est la sobriété. La Première ministre, qui est aussi, faut-il le rappeler, chargée de la planification écologique, doit faire cet après-midi le discours d'ouverture des rencontres des entrepreneurs de France, le grand événement de rentrée du MEDEF, l'occasion pour elle, en pleine crise énergétique, d'encourager les patrons à réduire de 10% leur consommation d'énergie. Une demande forte, Jacques Serret, car Elisabeth Borne veut marquer véritablement cette rentrée politique.
Oui, 3 mois après sa nomination à Matignon, Elisabeth Borne compte bien s'affirmer politiquement. Fini l'image de la première ministre discrète, froide et technocrate. Pour elle, l'heure de l'offensive a sonné en cette rentrée. Alors qu'Emmanuel Macron tient un discours assez sombre et pessimiste, la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance, la polytechnicienne multiplie les interventions médiatiques et propose des actions concrètes comme la création d'un fonds vert avec 1,5 milliard d'euros pour la transition écologique des collectivités territoriales et fait une promesse, nous n'allons pas laisser les prix de l'énergie exploser. Les Français peuvent compter sur moi. Déclaration sans détour, quitte à s'avancer sur des questions qui font débat au sein même de son gouvernement. Je ne ferme pas la porte à taxer les super profits, déclare-t-elle. Une idée pourtant rejetée par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Mais l'été est passé par là et Elisabeth Borne a désormais une cote de popularité qui dépasse celle d'Emmanuel Macron. De quoi se voir pousser des ailes.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
La crise énergétique, nouveau coup dur pour les entreprises après le Covid. La guerre en Ukraine et l'inflation ont déjà mis nombre de patrons à terre.
Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon une enquête du cabinet Altares et de l'association patronale GSC qu'Europe 1 et Le Figaro vous révèlent en exclusivité ce matin, près de 19 000 entrepreneurs ont mis la clé sous la porte au cours du premier semestre 2022. Wilfried De Villers.
Oui, c'est 30% de plus que l'an dernier. Dans 9 cas sur 10, il s'agit de petites entreprises de moins de 5 salariés. Toute la France est concernée, mais certaines régions le sont plus que d'autres, comme les Hauts-de-France, la Bretagne ou encore la Normandie. Parmi les secteurs les plus impactés, la construction, l'hôtellerie-restauration, le service aux entreprises et les commerces de proximité, Rémi Bourrézy est directement concerné, patron d'un magasin de chaussures dans le centre-ville de Castres. Il va mettre la clé sous la porte fin octobre.
J'ai passé les gilets jaunes, j'ai passé les retraites, j'ai passé le Covid. Là, il y a la guerre en Ukraine, ça commence à faire beaucoup et je vais avoir du mal à tirer mon épingle du jeu. D'autant quand même que j'ai des charges voilà, comme les PGE que je dois rembourser. Voilà, c'est quand même compliqué. Quoi. Tout ça pour ça, il vaut peut-être mieux s'arrêter avant d'aller vraiment dans le mur. Mentalement, j'ai plus l'énergie.
L'étude co-réalisée par l'association GSC le confirme. Ces dépôts de bilan en cascade sont bien liés à une accumulation inédite de facteurs. Le contexte géopolitique actuel, mais aussi l'inflation, les tensions sur l'énergie ou les phénomènes climatiques extrêmes. Selon les professionnels du secteur, d'ici la fin de l'année, 45 000 chefs d'entreprise pourraient perdre leur société.
Wilfried De Villers, la guerre en Ukraine aux conséquences si lourdes pour les entreprises françaises que le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même interviendra dès le début de cette rencontre des entrepreneurs organisée cet après-midi par le MEDEF.
La rencontre baptisée Eurovision cette année, Eurovision avec un S. Pendant ce temps-là, une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, est en route pour la centrale de Zaporijjia.
Annonce de son directeur Raphaël Grossi ce matin, nous devons protéger la sécurité de l'Ukraine et de la plus grande centrale d'Europe, a-t-il tweeté. Cette mission soutenue par l'ONU, composée d'une dizaine de personnes, arrivera sur place dans le courant de la semaine.
Il est 8h08 sur Europe 1, une rentrée très sport sur votre antenne préférée dès ce soir, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7. Le service des sports d'Europe 1 prend les commandes de l'antenne de 20h à 23h30.
Et aux manettes, Virginie Fulpin du mardi au jeudi et Lionel Rousseau du vendredi au lundi. Avec nous pour en parler, Jean-François Pérez, chef des sports du service d'Europe 1. Et
non,
notre éditorial.
Chef du service des sports. Hein.
Qu'est-ce que j'ai
chef
dit
chef des sports du service.
Mais non, voilà. Oui, tout à fait. Vous avez vu, j'ai hâte d'écouter cette émission, j'aurai tout à l'endroit
la
comme ça.
La tactique est bouleversée.
Et notre éditorialiste vedette, Jacques Vendroux. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Jean-François Pérez, je commence avec vous. Alors tous les soirs, pendant 3h30, du sport. C'est un sacré pari quand même.
C'est possible, on va vous le démontrer. Et merci à la direction de nous faire confiance. Ça sera une émission d'information. On n'hésitera pas à casser le sommaire si jamais il se passe quoi que ce soit avant les trois coups à 20h. Ça sera une émission de débat vif. On n'est pas souvent d'accord et c'est tant mieux, mais respectueux. Une émission de grand direct. La Ligue des Champions, la Ligue 1, la Ligue 2, le rugby, tous les sports, grâce à un partenariat formidable avec le service des sports de Canal+, hein, sur le rugby, la Formule 1, la moto, le golf, le foot, et puis le tennis, bien sûr, on est à la radio du tennis. Et puis ça sera une émission d'invités, d'entretien, on prendra le temps de discuter avec tous les acteurs du sport.
Et donc si je fais 30 kilos au développé couché, vous vous cassez l'antenne pour moi, vous me donnez la parole.
Disons que je réfléchirai à deux.
Bon. Alors, on l'a dit, des grandes interviews, des entretiens avec aussi des légendes du sport, Jacques Vendroux, hein. Ça c'est
oui.
La touche.
Oui, il y aura plusieurs thématiques du dimanche au dimanche, comme on peut dire. Il y aura par exemple une thématique importante, les décisionnaires du sport tous les jeudis, de 20h à 20h30. Et jeudi, eh bien, la première invitée, c'est Amélie Oudéa-Castéra, ministre de la Jeunesse et des Sports. Et puis il y aura aussi des entretiens qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Par exemple, ce soir, notre invité d'honneur, notre parrain, c'est Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a accepté, je veux dire, d'être le premier grand invité pour cette émission de ce soir. Et puis surtout, il y aura une séquence qui m'émeut déjà à l'avance. Nous nous sommes tant aimés, c'est-à-dire qu'on va demander à des grands champions, Pérec, Dru, Lamour, eh bien de nous dire tout simplement qu'est-ce qu'ils deviennent, tout simplement.
Eh ben, on a hâte d'entendre tout ça. Merci beaucoup Jacques Vendroux, merci Jean-François Pérez d'être venu tôt ce matin parce que vous êtes là tard ce soir de 20h à 23h30 sur Europe 1 pour la première d'Europe 1 Sport.
Voilà, le sport, c'est de l'actu, c'est du patrimoine aussi et ça vous y aura accès. Merci à tous les deux. Merci beaucoup Fanny. Il est 8h11 sur Europe 1 dans un instant. Le premier invité de la saison au micro de Sonia Mabrouk, c'est le penseur économiste Jacques Attali.
Europe 1.
Il est 8h13 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est économiste, écrivain et il annonçait dès l'an dernier une hausse des prix brutale.
Exactement, on vient de le vérifier ensemble, Dimitri. C'était en octobre.
28 octobre 2021.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Jacques Attali.
Bonjour Sonia.
Il y a donc un
bonjour,
an, Dimitri. Vous alertiez sur une inflation brutale et discontinue à venir, nous y sommes. Vous évoquiez alors une perspective d'inflation à 10%, dénonçant une sorte de politique de l'autruche. Est-ce qu'on n'a pas voulu voir? Est-ce qu'on n'a pas su anticiper?
C'est à l'échelle mondiale. Et si il m'arrive parfois de dire des choses pessimistes, c'est pas du tout parce que j'y trouve plaisir, c'est au contraire parce que c'est pour créer les conditions pour qu'on réagisse, parce qu'on peut très bien échapper à la catastrophe, mais la seule façon d'y échapper, c'est de prévoir qu'elle est possible. On aurait pu faire mieux avant, mais en quelque sorte, j'avais pris d'ailleurs dans cet article la métaphore des dents de la mer. Quand le requin est en train de monter, il n'y a pas grand-chose à faire que fuir et le combattre. Il faut faire les deux à la fois ici. Donc, en effet, on aurait pu prendre plus tôt des dispositions, mais il y a deux sortes de dispositions. Il y a des dispositions à court terme pour protéger contre l'inflation, qui sont des dispositions à la fois pour protéger les gens qui sont les plus menacés, les plus fragiles, et les protections globales, mais il y a aussi créer les conditions pour que dans le long terme, on puisse y échapper. Et pour ça, la seule façon d'y échapper, eh bien ça passe par des réformes absolument énormes qui n'auront pas de conséquences positives avant 5 ans ou 10 ans, mais plus on tarde à les faire, plus on tarde à en avoir
oui,
les effets.
Donc très difficilement acceptable, on va en parler dans quelques instants, Jacques Attali, mais dites-nous, explosion du coût de l'énergie, inflation, est-ce que c'est dû principalement à la guerre en Ukraine, comme on nous l'explique, ou est-ce qu'il y a d'autres causes bien plus profondes et antérieures?
Par définition, quand j'ai écrit cet article en octobre, il n'était pas question de l'Ukraine, même si, avec beaucoup d'autres, et dans les scénarios les plus pessimistes, j'envisageais cette guerre depuis plusieurs années, mais non, ça tient à ce que... C'est un petit peu comme quelqu'un qui tient un ballon au fond de la piscine. À un moment, le ballon finit par ressurgir. C'était quoi le ballon au fond de la piscine? C'est le fait qu'il y avait énormément de matières premières qui étaient en train de monter, parce qu'il y avait de la croissance qui faisait qu'il y avait des demandes de matières premières, en particulier de demandes d'énergie, et que les grandes entreprises industrielles et les distributeurs, à l'échelle mondiale, soumis à une concurrence impitoyable et voulant protéger les profits de leurs actionnaires, ont tenu les prix au maximum pour garder leur part de marché. Donc ils ont tenu les prix, un peu comme on tient un ballon au fond de la piscine. Mais à un certain moment, la poussée du ballon, c'est-à-dire la poussée des prix des matières premières agricoles et énergétiques, a été telle qu'ils ont été obligés de lâcher le ballon. Et c'était ce qui était prévisible avant. Alors que la guerre et la hausse
et précipiter tout cela
et était un petit facteur déclencheur de plus, ou en tout cas une sorte de, comme on dit en mathématiques, ce n'est pas une causalité, c'est une corrélation. Ça arrive en même temps, alors on croit que la corrélation indique une causalité, mais ce n'est pas le cas.
Est-ce qu'il y a aussi le résultat, Jacques Attali, des choix de nos gouvernants et de leurs conseillers depuis des années et des années? C'est ce qu'on dit, les choix environnementaux, sur le plan du nucléaire également. Oui. Est-ce qu'on en subit, nous, tous, les conséquences?
Oui, alors, encore une fois, il faut regarder ça à l'échelle mondiale. Les solutions à ces problèmes sont à la fois technologiques, politiques et surtout géopolitiques. Il faut bien...
Mais vous ne dites pas ça pour diluer la responsabilité de la France.
Non, mais la France, elle ferait tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle peut, qu'elle n'aurait aucun impact. Il faut le faire. Ne serait-ce que parce qu'on est à l'avant-garde du monde et que c'est notre intérêt que de le rester, que la seule façon de rester à l'avant-garde, c'est de porter le modèle de demain et pas de défendre le modèle d'hier. Tout se joue dans la possibilité de convaincre d'une façon ou d'une autre les Chinois, les Américains et les Indiens de réduire leur consommation et leur usage d'énergie productrice de gaz à effet de serre. On voit l'ampleur de l'enjeu, mais on n'en parle pas. On parle de sujets respectables, mais on ne parle pas des enjeux de la géopolitique de l'environnement.
Et pourtant, ils sont majeurs. On va en parler, puisque c'est ça qui nous permet d'agir. Simplement sur le rôle de la France, Jacques Attali, alors que les étiquettes continuent de flamber dans les magasins et qu'une partie des Français sont contraints de se serrer la ceinture, est-ce que vous diriez quand même ce matin que la France tire son épingle du jeu, qu'on fait partie des moins mauvais élèves?
Oui, il suffit de regarder les chiffres, vous avez raison. Il suffit de regarder les chiffres. En termes d'inflation, vous avez des pays européens qui sont au-dessus de 15%, même certains au-dessus de 20%, et on est dans les moins mauvais. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans les moins mauvais? Parce qu'on a fait un choix politique que je trouve parfaitement respectable pour le moment, qui est de faire payer la hausse des prix, non pas par le consommateur, mais par le contribuable. C'est un choix.
C'est-à-dire que il y a des conséquences, hein. C'est pas un choix neutre.
Par le contribuable, et pour être plus complet, par le contribuable d'après-demain, puisque c'est par la dette qu'on le fait payer, c'est-à-dire par les petits-enfants de... Mais après tout, les politiques ne seront plus là avant que les conséquences se voient, en tout cas le croient-ils. Donc c'est un choix qu'on a fait. C'est un choix qui, à mon avis, a des limites, parce que, encore une fois, c'est comme le ballon au fond de la piscine. À un moment, ça finit par ressurgir plus vite qu'on ne le croit. Mais c'est un choix qui est nécessaire aujourd'hui pour atténuer les chocs, mais il ne faut pas que l'anesthésique remplace l'opération chirurgicale. L'opération chirurgicale, c'est-à-dire se lancer dans la production de ce qui va nous permettre d'échapper à la dépendance aux énergies carbonées, c'est-à-dire pas seulement le développement des énergies de substitution, et en France on est moins mal que d'autres, mais aussi basculer vers ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire basculer nos consommations et nos productions vers les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'hygiène, de l'alimentation saine.
Ça va supposer un énorme changement de paradigme.
Considérable. Bon,
mais avant d'y arriver, on essaye d'imaginer d'autres sources d'approvisionnement.
Non, pardonnez-moi, avant d'y arriver, il faut commencer. Avant de réussir, il faut commencer. Donc je dis non.
Mais qui
non,
doit
pas
commencer? Est-ce que c'est au gouvernement d'imaginer, d'avoir une vision,
oui,
ou est-ce que vous en appelez aux citoyens?
Il faut tout ça. Il faut ce qu'on appelle, et je vais le dire peut-être d'une façon pédante, mais en allemand, Weltanschauung, une vision du monde qui peut être à la fois personnelle et collectif. Personnel, ça veut dire je dois en permanence me poser la question: est-ce que je consomme des produits de l'économie de la vie ou des produits de l'économie de la mort? Est-ce que je suis habillé avec des produits avec des textiles qui sont faits avec des plastiques? Est-ce que j'utilise...
Je vous pose la question, tiens, en vous regardant ce matin, avec vos fameuses chemises col le Mao, répond Jacques Attali?
Je ne vais pas faire de publicité particulière, mais il y a une application bien connue qui s'appelle Yuka, qui permet de vérifier ce qu'on utilise, et il y a beaucoup d'autres moyens de savoir si ce qu'on utilise est conforme. Et de même, ne pas utiliser de sucre artificiel, ne pas consommer de produits. Il y a deux sortes de poisons. Il y a les poisons liés aux énergies et les poisons liés au sucre, sans compter les autres poisons innombrables. Il faut à tout prix, à titre personnel, mais aussi travailleur, est-ce qu'on travaille dans ces entreprises? Il faut les orienter. Est-ce comme épargnant, qu'est-ce qu'on fait de votre argent en banque?
Est-ce que ça tient à cela? Nous voulons devenir...
Ça tient aussi au gouvernement. Il faut que les gouvernements mettent en place un projet. de mobilisation générale en faveur d'une conversion de notre société sur l'économie de la vie. Par exemple, dans l'aviation, il est absolument évident qu'on peut aujourd'hui accélérer le rythme avec lequel on va aller vers des avions électriques et des avions à hydrogène.
Vous entendez parler de ça ? Parce que nous, on entend plutôt en ce moment parler des jets privés, des piscines, des jet skis. Est-ce que c'est à la hauteur du défi ? On a entendu ce matin sur Europe 1 nos différents chroniqueurs, Nicolas Bouzou, dire que c'est anti-économique, anti-écologique, anti-démocratique, et Vincent Trémollet du Figaro dire mais c'est une police aujourd'hui dans la vie des citoyens.
La police, à mon avis, est parfaitement respectable puisqu'il n'y a pas de démocratie sans police. Donc je ne vois pas
jusqu'où
de contradiction.
Doit-elle aller ?
Elle doit aller jusqu'à créer les conditions de faire respecter la loi et rien de plus que la loi. Donc la loi, pour faire admettre et comprendre ce projet, d'abord il faut l'expliquer. J'ai eu le privilège de rencontrer, quand j'étais très jeune, un homme politique important qui s'appelait Pierre Mendès-France et qui m'a dit « Jeune homme, n'entrez pas en politique parce que c'est un métier qui consiste à répéter tout le temps les mêmes choses. » Donc il faut répéter cette importance de passer de l'économie de la mort à l'économie de la vie et créer les conditions que ça devienne une grille de lecture de notre action. Une action nationale, bancaire, industrielle, personnelle, géopolitique européenne.
Géopolitique, Jacques Attali, ce matin, pour nos auditeurs qui vous écoutent chez eux, dans leur salle de bain, à la maison, dans la voiture, nous voulons devenir écologiquement irréprochables. Mais pendant ce temps, ailleurs, certains pays abusent du charbon, d'autres jettent des déchets à l'infini à la mer, d'autres encore produisent à si bas coût qu'ils ruinent une partie de notre industrie. Alors à quoi ça sert d'aller tout seul vers cet objectif que vous décrivez ?
Ça sert, non pas. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas y aller tout seul, il faut que notre diplomatie, notre géopolitique, notre action européenne, notre action internationale, soit dans ce sens. Pourquoi est-ce que la Banque européenne d'investissement n'est pas une banque de l'économie de la vie ? Pourquoi est-ce que la Commission européenne, le Parlement européen ne fait pas de l'économie de la vie l'axe central de son action, la condition de ses accords internationaux ? Si on faisait tout ça, nous sommes la première puissance mondiale, nous, Européens, on a les moyens de peser par notre capacité de sanctions, ou de coopération, en disant « nous allons devenir le leader mondial de l'économie de la vie, et nous en France, le leader dans l'Europe de l'économie de la vie, c'est notre intérêt à moyen terme. Si les Allemands vont si mal aujourd'hui, c'est que justement ils ne sont pas dans l'économie de la vie. Ils sont dans des secteurs qui dépendent que des secteurs les plus catastrophiques de l'avenir. Nous avons encore cette chance. Nous sommes très bons dans beaucoup de secteurs de l'économie de la vie et à nous de prendre la direction de ce projet à la fois national, individuel et géopolitique.
En attendant de prendre cette direction, Jacques Attali, inflation, dette, ce sont des facteurs de désordre sociaux. Alors il est toujours périlleux de prévoir l'avenir, mais quels sont les risques sociaux là en France si cette situation perdure ?
De toute façon, il va falloir continuer à amortir le choc et les Français ne le supporteraient pas, surtout si on n'inscrit pas dans une action longue, si on n'explique pas que c'est une action longue. Donc, je pense qu'il faut le faire. Mais il y a un mot qu'on ne prononce pas assez.
Lequel ?
Et qui est, à mon avis, un grand débat qu'il va falloir avoir. J'ai dit tout à l'heure qu'on protège de l'inflation par l'impôt. Faut-il protéger tout le monde ? Je pense que le grand débat qu'il faudrait avoir, et qui est un débat qu'il faudrait avoir d'une façon apaisée, c'est mettre les protections, toutes ces protections, sous conditions de ressources. Et quand on arrive à dire sous conditions de ressources, ça veut dire que les plus riches ne doivent pas être protégés et que les moins riches doivent l'être.
Attendez, l'inflation est un impôt sur les plus
pauvres,
nous sommes d'accord.
Absolument. Donc il ne faut protéger que ceux qui mériteraient de l'être. Et le grand débat qu'on ne veut pas avoir véritablement, en France en tout cas, parce que d'autres pays l'ont eu, en particulier dans les pays d'Europe du Nord, qui sont certainement parmi les démocraties les plus avancées, c'est sous condition de ressources, jusqu'à quel niveau ?
Alors, oui, mais c'est la vraie question. Alors, à partir de quand est-on riche ? À partir de quand peut-on supporter cette inflation ?
Voilà. Et je pense que c'est le grand débat démocratique.
Mais quelle politique peut fixer ce curseur, Jacques Attali ?
C'est à la politique de le fixer. C'est aux citoyens que de décider. Sans doute faudra-t-il d'ailleurs mettre sous condition de ressources d'une façon dégressive. En disant, bon, ce qu'est d'ailleurs l'impôt sur le revenu, qui s'est construit en plus d'un siècle maintenant, comme quelque chose qui est défini sous condition de ressources. Donc, sous condition de ressources, et on voit bien, l'impôt sur le revenu a défini ce que signifie être pauvre, c'est ceux qui ne sont pas taxés, ce que signifie être très riche, ce qui signifie être très taxé. Et je pense qu'il y a beaucoup d'allocations ou d'avantages qui ne sont pas sous condition de ressources.
C'est un discours qui est tout à fait entendable, mais ce qui n'est pas démagogique. Quand on entend le Premier ministre, Madame Borne, qui ne ferme pas la porte désormais à une taxation des super-profits.
Je suis pour cette taxation.
Mais pourquoi ? À part plaire à la gauche et avoir un scalp pour la gauche, est-ce efficace ?
Comme je me ressens, pour ma part, toujours de gauche, je ne vois pas en quoi ce serait un gros mot que de le dire. Mais le mettre sous condition de ressources, ça veut dire créer les conditions d'une acceptation démocratique du fait que certains sont protégés et d'autres sont assez riches pour le prendre sur eux.
Mais Jacques Attali, la question c'est l'efficacité. En quoi est-ce efficace véritablement sur le plan économique pour nous sortir de ce cycle infernal ?
On ne peut pas avoir quelque chose qui soit efficace économiquement si socialement ce n'est pas accepté. C'est pourquoi je pense qu'il faut créer les conditions d'une acceptation sociale de la mobilisation vers l'économie de la vie dont je parle par ailleurs. Il faut les deux à la fois.
Est-ce que on vient de décrire d'énormes défis, des aléas, des risques réels pour la France et le monde. Est-ce qu'il y a quand même des raisons d'espérer ? Est-ce qu'il y a des capacités de résilience ?
La France est un extraordinaire pays qui a une chance, qui a des chances inouïes. Son principal défaut, c'est de se savoir très riche et donc de ne pas faire tous les efforts nécessaires. Mais nous sommes potentiellement, et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes menacés. On est jalousés, on est menacés, on veut nous détruire de l'extérieur et de l'extérieur, pas de l'intérieur. On veut nous détruire parce que nous représentons...
Nous détruire, à ce point.
Oui, on veut détruire notre démocratie, on veut détruire l'Europe que nous construisons, parce que nous représentons pour beaucoup de pays l'antimodèle. Pour la Russie d'aujourd'hui, l'Europe est l'antimodèle. C'est ce qu'il ne faut surtout pas qu'ils réussissent. Si l'Europe réussit, quelle est la raison d'être de ce modèle de dictature russe ? Donc on veut nous détruire. Et nous sommes enviés du monde entier. Il suffit de se promener un peu à travers le monde ou même d'écouter les radios.
Est-ce que ce ne sont pas vos lunettes à vous pour d'autres ? Il y a d'autres modèles qui sont tout à fait respectables et que nous dénonçons depuis notre Europe et notre France.
Bien sûr qu'il y a d'autres modèles. Mais regardez les faits, nous sommes là parmi les... Enfin, l'Europe est la première puissance du monde. Où vaut-il mieux vivre qu'en Europe et en France ? Bien sûr, évidemment, il y a 10 millions de personnes qui sont pauvres. Il faut cesser qu'ils le soient. Et c'est pour ça que je parle de mettre les choses sous condition de ressources. Il faut être hanté par cela. Il faut garder en tête que les grands pays qui réussissent le mieux à tout point de vue sont les pays les plus justes socialement. Je parle en particulier de la Finlande, du Danemark, de la Norvège et de la Suède, de l'Islande, enfin des petits pays. Mais nous avons tous les moyens de rester plus encore une grande puissance de l'économie de la vie, de la santé, de l'éducation, de l'alimentation et d'être un grand pays de l'éducation et de la justice sociale.
Alors, armons-nous pour cet objectif. Merci d'en avoir parlé ce matin au micro d'Europe 1, Jacques Attali. Et bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Non, oui, passionnant, ça m'inspire beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut interdire les jets privés pour rendre acceptables les sacrifices que nous imposent le changement climatique? Ça fera partie des questions qu'on va se poser dans la prochaine demi-heure. Et je renvoie d'ailleurs les auditeurs vers votre livre, L'économie de la vie, parce que vous en avez beaucoup parlé, mais plus de détails dans cet ouvrage, qui n'est pas votre dernier, mais qui est celui-là absolument passionnant.
Merci.
Merci à tous les deux. Dans la prochaine demi-heure, de nouveau rendez-vous, la chronique en absurdie d'Emmanuel Ducrot. Alors, toute ressemblance avec notre beau pays de France est évidemment totalement fortuite. Les signatures Europe 1, 8h37. Ce matin, ce sera Philippe Val. Et puis, 8h40, le club de la presse Europe 1. Ce matin, Carole Barjon de l'Obs et Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles pour commenter l'actualité. 8h29.
7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h31 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité, Christophe Lamarre.
Les chefs d'entreprise de plus en plus nombreux à jeter l'éponge. 19 000 ont mis la clé sous la porte au premier semestre de cette année. C'est 30% de plus que l'an dernier, résultat d'une enquête révélée par Europe 1 et Le Figaro ce matin. Les patrons inquiets pour 2023, mais leur morale résiste. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, l'affirme ce matin dans les colonnes du Figaro. Ouverture aujourd'hui de l'université d'été de l'organisation patronale. Elisabeth Borne doit y prononcer un discours. La première ministre devrait appeler une nouvelle fois les entreprises à la sobriété énergétique. Face à la crise énergétique qui menace, la France va augmenter ses importations de gaz algérien. Le porte-parole du gouvernement pourrait l'annoncer dans les prochains jours. Selon nos informations, cette hausse des livraisons de gaz algérien pourrait aller jusqu'à 50% des volumes actuellement livrés. Un pompier volontaire de 19 ans mis en examen et écroué en Gironde, il est soupçonné d'avoir provoqué 31 départs de feu dans le Médoc entre le 29 juillet et le 21 août. Devant le juge, l'incendiaire présumé a confirmé les aveux passés lors de sa garde à vue.
Rien ne va plus dans la famille Pogba. L'international français porte plainte pour tentative d'extorsion dans une vidéo. C'est son frère aîné, Mathias, qui le menace de révélations fracassantes.
Une enquête est ouverte en France et en Italie. Europe 1 est en mesure de confirmer et de compléter les informations de nos confrères de Radio France. Le champion du monde 2018 avec les Bleus a été entendu par les policiers français. Jean-François Pérez, il affirme avoir été menacé par des hommes armés qui lui réclament 13 millions d'euros.
Oui, c'est une affaire à peine croyable. Tout aurait commencé au printemps dernier. Pogba est en France pour un stage avec les Bleus. Il en profite pour passer chez lui, en région parisienne. D'après son récit, des amis d'enfance l'emmènent faire un tour en voiture. Le joueur ne se méfie pas. Il se retrouve dans un appartement entouré d'hommes cagoulés et armés qui lui réclament 13 millions d'euros. 13 comme les 13 années durant lesquelles Pogba aurait été, je cite, « protégé par ce groupe ». Il s'agirait pour la plupart de très proches du joueur, une demi-douzaine selon nos informations. Pogba a longtemps été très généreux financièrement. financièrement avec son clan, sa famille, ses amis, mais il aurait dit stop après un énième abus et c'est à ce moment-là que les choses auraient dégénéré. Le joueur aurait été poursuivi jusqu'à Manchester, puis à Turin où il a signé cet été. La menace de trop, il alerte ses avocats avant d'être entendu par les polices italiennes puis françaises. Une sombre histoire qui met une nouvelle fois en évidence le rôle parfois toxique de l'entourage des stars du foot, celui du frère de Paul Pogba, Mathias, qui a publié une mystérieuse vidéo ce week-end promettant des révélations explosives, semble particulièrement trouble.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe.
Merci Christophe Lamarre, qu'on retrouve à 8h30 tous les matins comme l'année dernière. J'espère, chers auditeurs, que vous avez pris vos marques dans ce nouveau 7-9, un petit peu remodelé avec quelques nouveaux noms, mais les fondamentaux sont toujours là. Tiens, ben, parlant des fondamentaux, la météo.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure ? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Eh ben, la piscine, justement, Anissa
on va sauter dedans.
Si on en a une à disposition, c'est une bonne journée pour aller y faire un tour.
Oui, il va faire très beau aujourd'hui, c'est une journée estivale. De la Bretagne à l'Alsace, des Hauts-de-France à la Méditerranée, en passant par l'Auvergne, le soleil brille quasiment sur toutes les régions, quasiment. Parce qu'en effet, au bord de la Méditerranée ce matin, sur les côtes du Roussillon, on a des entrées maritimes. Alors vous avez l'habitude dans la région, mais c'est vrai que les entrées maritimes de ce matin, elles vont avoir du mal à se dissiper. Le temps va rester gris et humide au bord de la Méditerranée. Et puis on a un autre bémol aujourd'hui, ça concerne le sud-ouest du pays où le ciel est chargé. D'abord sur les Pyrénées-Atlantiques du côté du Pays Basque, puis entre le Limousin et l'Occitanie en fin de journée où les orages éclatent. Attention, par endroits, ils seront forts. Alors côté température, on aura 25 à 33 degrés sur l'ensemble du pays. 23-24 degrés sur les côtes de la Manche et dans le sud-ouest il va faire chaud, lourd avec 35 à 38 degrés.
Merci beaucoup Anissa, 8h35.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Et c'est l'un de vos nouveaux rendez-vous. Bonjour Emmanuel Ducrot.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Nouvelle correspondante d'Europe 1 en absurdie, État qui a pour principe de faire à peu près les choses systématiquement à l'envers. Alors vous, vous êtes installé, vous avez pris vos quartiers depuis quelques jours à Irrationa, la riante capitale de l'absurdie. Mais alors, quelles sont vos premières sensations, vos premières découvertes dans ce pays, Emmanuel ?
Vous savez Dimitri, je suis là depuis quelques jours, encore un peu sous le coup du décalage horaire. Je suis en train de me familiariser avec les us et coutumes de l'absurdie, c'est un peu déroutant. Je vais essayer de partager avec nos auditeurs le récit de mon voyage. Alors, je ne suis pas anthropologue, évidemment. Je me sens un peu comme Candide ici. Je vais observer, je vais raconter en essayant de rester le plus cartésienne possible. C'est ça qui nous caractérise, nous, les Français.
Alors, avant de commencer à travailler, vous vous êtes installé au début de l'été. Qu'est-ce qui s'est passé en absurdie cet été ?
Ah bien, vous savez, le réchauffement climatique n'épargne évidemment pas l'absurdie. On a eu jusqu'à 40 degrés dans la capitale Irrationa, dont j'aurai sans doute l'occasion de vous reparler longuement. Mais ce qui a frappé les esprits ici, ce sont les incendies dramatiques qui ont dévasté le pays. Tiens. Ça a été ma première prise de contact avec l'absurdie. Je n'ai pas été déçue. Hein. Une forêt emblématique composée de pins s'est embrasée dans le sud-ouest du pays et 7000 hectares de bois ont brûlé.
Mais j'imagine que tout avait été quand même prévu en cas d'incendie de cette forêt, non ?
Oui, il était tout à fait prévu de ne rien faire. C'est une forêt dont une partie a un statut très ancien qui date du Moyen-Âge avec des usagers qui ont le droit de regard sur la gestion. Et ils ont estimé que cette forêt ne devait pas être dérangée. Hein, voilà, pas la déranger. On ne fallait pas couper des arbres, il ne fallait pas bétonner pour tracer des routes pour les pompiers ou même la débroussailler. La forêt, vous savez, ça doit se débrouiller tout seul. La nature doit faire son œuvre. Et d'ailleurs, les usagers ont obtenu le soutien des élus du coin qui se sont félicités de cette grande victoire écologique sur les exploitants forestiers qui voulaient bien évidemment faire de l'argent avec les coupes de bois.
Bon, on ne fera plus rien puisqu'il n'y a plus de forêt maintenant qu'elle a brûlé. Elle s'est débrouillée en fait, hein, la forêt, c'est
ça ? Elle s'est très très bien débrouillée. Très bien. Elle s'est auto-nettoyée par le feu à l'ancienne. Régler les problèmes de broussailles, régler les problèmes liés à l'exploitation des arbres, c'est toujours ça que le capitalisme n'aura pas. C'est un peu radical peut-être, mais c'est très efficace.
Et est-ce que l'absurdie a connu la sécheresse aussi ?
Alors oui, évidemment. Alors l'absurdie ne manque pas d'eau dans l'absolu. Elle est abondante en hiver, plus que chez ses voisins, mais l'été, ça coince un peu. Alors en absurdie, on a vu se développer cet été des rituels un peu surprenants autour de l'eau. On a vu des absurdiens boucher des trous de golf pour lutter contre la sécheresse. On en a vu aussi éventrer des jacuzzis dans des sortes de rites sacrificiels. Alors je pense que c'est un peu religieux, mais je vais creuser un peu plus parce que je ne suis pas encore très très sûre de moi.
On a hâte d'avoir les résultats de votre enquête. Et on fait comment sinon ? On stocke l'eau du fait de la sécheresse ?
Ah non, ici Dimitri, on détruit les réserves. Oui, on les détruit. Oui. C'est très logique, façon absurde. On lacère les réserves d'eau en pleine sécheresse pour éviter que l'eau ne soit gaspillée par les agriculteurs qui auraient l'idée saugrenue de produire à manger pour leurs compatriotes.
Bon sang, mais c'est bien sûr.
Et oui, on leur demande plutôt d'éduquer leurs légumes, les animaux, les céréales, à changer leur mode de développement pour utiliser pas d'eau, pour ne pas utiliser d'eau en été. L'absurdie, vous le savez, est en pointe hein, pour rompre avec les pratiques agricoles qui ont cours depuis les débuts de l'agriculture il y a 7000 ans. Il va accessoirement falloir que les absurdiens renoncent à cette idée folle de se nourrir des produits de leur terroir. Ça consomme, vous le savez, beaucoup, beaucoup trop d'eau. Un agriculteur de l'ouest du pays a d'ailleurs été rappelé à l'ordre pas plus tard que ce week-end. Des absurdiens ont coupé les tuyaux d'irrigation de sa ferme. C'était un provocateur, hein, il faut le dire. Est-ce qu'on a idée d'irriguer des haricots bio pour les vendre localement? Faut quand même pas pousser, vous êtes d'accord? Les absurdiens voudraient plutôt que les agriculteurs prennent modèle sur un maraîcher des alentours de la capitale qui produit des légumes sans arroser, sans irrigation aucune. On l'a beaucoup vu ces dernières semaines dans les médias du pays.
Bon, est-ce que ça marche?
Bah, très bien, mais vous semblez douter, Dimitri. Ça marche très très bien. Il produit des tomates un an sur trois. Joli palmarès.
Ah ouais, c'est vrai, pas mal.
Ben oui, c'est aussi efficace que la gestion naturelle de la forêt par pyrolyse dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vous dire si l'absurdie a tout compris.
Mais oui, vous savez, pour être très cultivé, il faut beaucoup se planter. Un proverbe agricole.
Merci. Et absurdien.
Et toute ressemblance avec la France, évidemment, est totalement fortuite.
Hein, évidemment.
Évidemment. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot, qu'on va retrouver tous les matins pour ces chroniques en absurde. Dit drôle de pays, quand même. Hein. Irrationa, vous m'enverrez des cartes postales. 8h39 sur Europe 1, les signatures.
7h, 9h,
Europe Matin.
Chaque matin, une signature à l'antenne d'Europe 1. Et ce matin, bah, vous le connaissez, il était avec nous tous les vendredis. Désormais, ce sera le lundi. Bonjour Philippe Val.
Bonjour Dimitri.
Alors, vous revenez en cette rentrée sur le sombre pronostic du président de la République. Ça va tuiler pas mal avec ce que racontait Emmanuel Ducrot à l'instant. En préambule du Conseil des ministres, la semaine dernière, le président a parlé de la fin de l'abondance.
Oui, je trouve ça formidable. Alors, imaginons une expérience. Après qu'Emmanuel Macron a prononcé sa fameuse phrase « C'est la fin de l'abondance », imaginons qu'on demande à tous les journalistes politiques d'imaginer la réaction de la France insoumise, des écologistes, des socialistes et des communistes.
Bon, vous voulez dire la NUPES?
Oui, enfin j'ai du mal avec le nom de cette coalition, la NUPES. Ça me fait toujours penser à Hadès, qui dans la mythologie grecque conduisait les morts en enfer, un peu comme Staline conduisait l'humanité vers les jours heureux.
Revenons à nos analystes politiques, si vous voulez bien Philippe.
Voilà, alors à deux, trois exceptions près, dont je tairai le nom parce que j'ai assez d'ennuis comme ça, je mets ma main au feu que tous auront deviné au mot près la réaction de la NUPES à l'annonce de la fin de l'abondance. Quoi ? Quelle abondance ? Où c'est qu'il a vu de l'abondance ? Où elle est l'abondance ? Il n'y a jamais eu d'abondance ! Alors notons qu'il faut soit une intelligence politique de cochon d'Inde, soit la bonne foi d'un diplomate nord-coréen pour avoir compris que Macron parlait de la fin de l'abondance pour les pauvres. Mais enfin, passons. Notre vie politique ignore désormais toutes les règles du débat démocratique. Sous la houlette de Mélenchon, la gauche stalinienne est devenue la gauche pavlovienne. Plus besoin de se creuser le citron, il suffit de dire le contraire de ce que déclare l'adversaire.
Alors de fait, depuis les prémices du mouvement écologiste, c'était René Dumont hein, dans les années 70, toute la gauche écolo radicale dénonce l'abondance. Hein.
Oui, et prêche pour une société sobre, sans que l'on sache d'ailleurs très bien avec quel régime politique ni dans quel contexte international s'accomplirait la sobriété. À part économiser le savon et mettre des briques dans les chasses d'eau pour en diminuer la contenance, le projet de société restait flou. Mais depuis bientôt un demi-siècle, on peut rendre justice à la constance de la gauche écologiste pour sa dénonciation de l'abondance. Entre avril 1974, où René Dumont, devant les caméras de télé, levait son verre en disant « Je bois un verre d'eau précieuse », et la fin du mois d'août 2022, en 38 ans, les écologistes ont rallié toute la gauche radicale au dogme de la fin de l'abondance. Mais voilà qu'Emmanuel Macron, jusqu'ici prudent sur la question, vient lui-même de se rallier enfin à l'impératif de mettre fin à l'abondance. Pendant 40 ans, on répète « c'est la fin de l'abondance, c'est la fin de l'abondance » et il suffit que Macron dise la même chose pour qu'ils se mettent tous à brailler « abondance, abondance, mais où c'est qu'il a vu de l'abondance ?» Si Molière vivait aujourd'hui, j'imagine la géniale comédie qu'il écrirait.
Vous avez une idée du titre ?
Oui, le bio-tartuffe ou le tartuffe durable. Le problème, c'est que la nouvelle Union populaire écologique et sociale ne peut pas partager la moindre idée avec Emmanuel Macron. L'avenir de la planète, c'est important, certes, mais moins important que de trépigner en disant « Non, on n'est pas d'accord !» Même pas sur un des dogmes qui les fondent.
Bon, s'opposer, c'est donc plus important qu'être efficace.
Ben oui. Et on touche là précisément au fond de la bêtise politique. L'intelligence consistant à se grandir en concédant à l'adversaire que de temps en temps, on partage une conviction relevant de l'intérêt général. On peine à se souvenir que la gauche s'est honorée d'avoir été la maison de brillantes personnalités politiques aussi diverses que Léon Blum, Pierre Mendès France, Jacques Delors, Michel Rocard ou Robert Badinter aujourd'hui. Être de gauche, c'est répéter comme un seul perroquet les inepties débitées par le gourou Mélenchon. Dans la péroraison de son discours de l'université d'été de la France insoumise, il a déclaré qu'il fallait arrêter de mentir aux Français. Une telle préconisation, si elle était mise en œuvre, risquerait fort de le réduire au silence.
Merci beaucoup Philippe Vall. Bah tiens, justement, la fin de l'abondance. Est-ce qu'Emmanuel Macron s'est converti au modèle Amish qu'il moquait il y a peu de temps chez les écologistes? Pour qui les efforts et les sacrifices? Vous avez dit les pauvres, vous avez sans doute raison mon cher Philippe. On va en parler, on va prendre la température de cette rentrée dans le Club de la Presse dans un instant avec nos deux plumes du jour, Carole Barjon qui est grand reporter à l'Obs et Charlotte dans Hélas de Valeurs Actuelles, 8h44.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h46 sur Europe 1, le club de la presse qui se souvient qu'il y a un peu plus de 2 ans, à la sortie du premier confinement, Emmanuel Macron promettait le retour des jours heureux. Eh bien, à la place, mercredi dernier, il annonçait à des Français encore massivement en vacances la fin de l'abondance. La bamboche s'est terminée après un été marqué par les événements climatiques extrêmes. Alors ça a choqué les Français, cette météo, ces incendies, cette canicule, cette sécheresse. Malgré tout, la question que ça pose, est-ce que nous sommes prêts à changer? Est-ce que le temps des efforts et des sacrifices est venu? Pour qui d'ailleurs les sacrifices? Bonjour Charlotte Dornelas.
Bonjour Dimitri.
Journaliste à Valeurs Actuelles. Bah, vous étiez en vacances, vous, un petit verre de rosé à la main quand Emmanuel Macron annonçait la fin de l'abondance. Bonjour Carole Barjon.
Bonjour.
Grand reporter à l'Obs. Alors voilà, la question, je vais faire mon cynique. Y a-t-il de la tactique politique, pensez-vous, Carole Barjon, dans cette déclaration fracassante d'Emmanuel Macron à propos de la fin de l'abondance? Je m'explique. Comment on surmonte le traumatisme de la taxe carbone? Comment on fait passer aux Français le message de la nécessité de se chauffer moins, peut-être l'hiver prochain, sans se prendre le peuple en boomerang dans le visage, finalement? C'est un peu ça la question que pose Emmanuel Macron.
Oui, et moi je crois qu'il a fait ses annonces effectivement de manière tout à fait délibéré pour nous faire comprendre à tous qu'il allait falloir faire des efforts, que le temps de la sobriété, si on a bien compris, est venu. Ce qu'avait déjà dit, il faut le rappeler, avant l'été, je crois que c'était dans une interview, enfin une tribune au Journal du Dimanche, les trois grands énergéticiens français qui avaient dit, voilà, c'était déjà, si vous voulez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette tribune, elle avait été plus ou moins suscitée ou recommandée. Elle a eu l'aval de la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Donc, si vous voulez, c'est un mouvement qui vient de loin. Enfin, c'est vraiment une préparation des esprits qui vient de loin. Et Emmanuel Macron l'a fait de manière plus tonitruante, on va dire, sur la fin de l'abondance et de l'insouciance. Mmh. Et c'est pour ça que quand Elisabeth Borne, on dit beaucoup qu'elle a voulu rassurer un petit peu les Français dans une interview hier aux Parisiens...
Oui. En disant, on va vous protéger, je ne laisserai pas prix s'enflammer. Pouvoir à la Première ministre pour bloquer les prix de l'énergie?
On va amortir les hausses de prix, etc. Ouais. Moi, je crois que ce sont de petits pansements, mais qui ne doivent pas faire oublier le message essentiel du président de la République.
Alors justement, ce message, c'est préparer à un effort national, Charlotte
Dornelas. En fait, il y a trois sujets d'étonnement, on va dire, devant cette phrase. Le premier, c'est vis-à-vis d'Emmanuel Macron lui-même, sa personnalité. Il est élu la première fois il y a 6 ans. Il dénonce les patientrismes, le déclinisme de ses adversaires dans la sphère politique. Et lui dit, je suis le candidat de l'espoir, tout est à refaire, on va y arriver, etc. Or, quand vous expliquez que ça va mal, c'est précisément avec une vision d'espoir derrière pour changer quelque chose. Et dans votre question initiale, il y avait quand même cette question, pourquoi ou pour qui sont ses efforts. Et cette réponse-là, on ne l'a pas très clairement depuis quelques mois. On a compris au début qu'il y avait la guerre en Ukraine qui a mobilisé, on va dire, plus l'émotion vis-à-vis des Ukrainiens eux-mêmes. Mais aujourd'hui, on ne sait pas très bien où on en est. Ensuite, il y a un étonnement, on va dire, plus sur le domaine de l'écologie, où Emmanuel Macron lui-même, d'ailleurs, mais beaucoup de gens dans la sphère politique reprochaient précisément aux écolos depuis des années revendiquer, on va dire, la sobriété contre l'innovation technologique. Et là, on voit tout à coup le camp du progrès, de la technologie basculer elle-même dans la revendication.
Mais ce n'est pas quelque chose qui vous a surpris dans la polémique sur les jets privés qui fait écho à cette déclaration sur la fin de l'abondance. On a l'impression d'un gouvernement, d'un Clément Beaune qui peut être en franc-tireur ou avec l'aval du président de la République. Bah, quand même, s'engage dans une sorte d'anticapitalisme punitif. C'est-à-dire, interdisons les jets privés, ça fera passer la pilule à tous les pauvres qui, derrière, repaieront leur facture d'électricité trois fois plus chère. Enfin, c'est peut-être d'un cynisme terrible ce que je dis, mais le calcul politique vous paraît-il tenir la route ?
Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que d'ailleurs, on pourrait étendre au-delà des jets, parce que les jets, ça pose une question. C'est plus une question, me semble-t-il, de moralité personnelle, de la manière de vivre, qu'une gestion politique. C'est un peu facile. C'est un genre de lutte des classes redécorée écolo, mais même plus largement, on vous dit c'est la fin de l'abondance. Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit, on parle bien du président des Gilets jaunes, là. Il utilise le mot abondance. Je pense qu'il n'a pas très bien compris où en étaient beaucoup de Français. Donc c'est beaucoup plus large que ça. C'est, est-ce que notre mode de vie matérialiste, on va dire, de ces dernières décennies, est-ce que c'est ça qu'on veut remettre en cause ? Mais alors là, c'est une question qui est beaucoup plus philosophique qu'économique, enfin plus large qu'économique seulement. Ou est-ce que on se sert des riches pour s'en sortir à bon compte, quoi ?
Oui. Carole Barjon, c'est vrai que le fait de l'abondance n'est pas vécu par tous les Français, c'est vrai.
Non, c'est vrai. Alors, juste un petit mot sur les jets privés, quand même. Je crois que Clément Beaune s'est avancé un peu tout seul. Il a voulu réagir à la proposition de Julien Bayou, le secrétaire national des Verts, mais en réalité, Macron n'a pas du tout apprécié. Je rappelle que hier...
Mais on voit qu'il y a un débat au sein du gouvernement sur cette question.
Oui, Gabriel Attal a quand même dit
hier... De même que sur la taxation des super-profits.
Gabriel Attal a quand même dit hier qu'il ne fallait pas prendre les choses par le petit bout de la lorgnette, ce qui était quand même une manière de renvoyer Beaune... dans ses
dans ses
fauteuils. La vraie question, c'est les super profits, à mon avis, parce que ça, d'abord, Elisabeth Borne l'a pas exclu, même si derrière il y a tout un discours sur on va pas ce gouvernement, la marque de fabrique d'Emmanuel Macron, c'est les baisses d'impôts et on va pas donc remettre des impôts supplémentaires.
Alors question, c'est quoi les super profits? À partir de quand une entreprise entre-t-elle dans la catégorie des super profits? Parce que sont visés dans cette idée,
les pétroliers, en gros,
les pétroliers, bon. CMA CGM, le transporteur aussi, qui affiche des chiffres d'affaires records cette année, mais il y a pas qu'eux qui ont fait de bonnes années.
Prenez, non, c'est vrai.
Sanofi a fait une excellente année aussi.
C'est vrai, mais par exemple en Italie, ce sont les pétroliers qui ont été taxés. Voilà. Donc aussi, si vous voulez, ça peut être aussi une manière de, je ne sais pas ce que déclarera Elisabeth Borne devant le MEDEF aujourd'hui, ça peut aussi être une manière, de compenser par avance des mesures qui seront sacrificielles, parce que il est absolument évident qu'il y aura des mesures sacrificielles. On ne sait pas lesquelles. Il faudrait quand même que Macron, une fois qu'il a dit c'est la fin de l'abondance,
malgré tout, on est quand même surpris, Carole Barjon, parce que regardez, c'est pas la fin de l'abondance de liquidité. Que fait le gouvernement depuis plus de deux ans ? C'est désensibiliser le corps social au coût de la crise en finançant le pouvoir d'achat. Et Geoffroy Roux de Bézieux, dans son interview au Figaro, le rappelle ce matin. Il dit « Nous devons absolument revenir dans l'épure d'un déficit inférieur à 3% du PIB, dont on est extrêmement loin. »
Justement, on peut se demander si ces annonces de Macron, enfin ce message plutôt que des annonces, n'annonce pas en fait la fin du quoi qu'il en coûte.
Ça fait trois fois ou quatre fois qu'on annonce la fin du quoi qu'il en coûte, ceci dit.
C'est la même question sur les super profits. Moi, j'ai pas de problème du tout à poser la question de la taxation des super profits en soi. Simplement, on a l'impression que c'est pareil. C'est une phrase qui va combler, on va dire, le vide de la déclaration initiale. Et on nous dit, on va taxer les super profits. On sait que depuis des années, le problème, c'est que taxer les super profits, les super profits partent au moment où on veut les taxer, et donc on n'y arrive plus. Et donc, à la fin, les seuls qui sont réellement taxés, c'est en effet les petits et les moyennes entreprises qui, elles, croulent sous les taxes bien réelles et qui dépassent les déclarations. Donc on ne comprend pas, et ça rejoint la question, en effet, du quoi qu'il en coûte et de la distribution qui, par ailleurs, se poursuit. On se dit, en fait, il y a une obsession depuis un an, c'est la question du pouvoir d'achat qu'on ne se pose pas en soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est nécessaire ? Est-ce qu'individuellement, on doit se poser la question de, en effet, notre pays n'est plus aussi riche qu'avant ? En effet, il y a un déficit terrible ? En effet, il y a une crise ? En effet, nous nous sommes lancés dans une guerre qui a des conséquences ? Est-ce qu'individuellement, les Français, démocratiquement, on pourrait dire, sont d'accord pour tout ça ? La question ne leur est pas posée. On fait toutes ces choses-là et ensuite on dit on va distribuer de l'argent partout et après on nous dit c'est la fin de l'abondance. Ah, pardon, mais l'incohérence, elle est inouïe. Quoi. C'est, oui, mais c'est impossible de s'y retrouver.
Bien sûr, mais on peut se demander si aussi cette entr'ouverture de porte par Elisabeth Borne sur la taxation des super-profits, c'est quand même aussi une manière d'inciter les entreprises à redistribuer. Elle l'a d'ailleurs dit, il y a les prix, la prime Macron et on peut la tripler. C'est aussi une manière de leur dire peut-être qu'il faut augmenter les salaires, parce que la vraie question, c'est celle du pouvoir d'achat des Français. Et donc ça passe aussi par une augmentation des salaires. On avait bien vu ce qui s'était passé dans la restauration, où après des années où tous ces gens qui travaillaient dans des conditions difficiles étaient au fond très mal payés, les restaurateurs ont fini par comprendre que oui, il fallait avoir des salaires attractifs parce que sinon, il n'y avait plus de personnel, comme nous l'avons tous constaté, je crois, cet été, dans les restaurants et les hôtels.
Il y a une vraie question salariale en France, mais c'est vrai que l'équation fin de l'abondance, des sacrifices importants dont on peut se demander si les Français sont prêts à les réaliser, ils sont prêts à les accomplir. On voit la relation des Français au travail aujourd'hui.
C'est exactement ce que j'allais vous dire en vous écoutant. Je me suis dit, dans le fond, le vrai sujet, c'est la question du travail. C'est la question du rapport que nous avons au travail que nous faisons. C'est la question du rapport aussi que l'État ou les employeurs, de manière générale, se font du travail qui leur est rendu. C'est-à-dire à la fois la question des salaires. En effet, tout travail mérite salaire. Bon, c'est la base, certes, mais un salaire décent. On pourrait aussi parler de la question des professeurs
tout
en ce moment.
Tout salaire mérite travail aussi.
Tout salaire. Et voilà. Et à l'inverse, tout salaire mérite travail.
Mais
en fait, les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'il y a un rapport aussi à la question. On voit la pénurie. C'est pour ça que j'y pensais en vous écoutant. La pénurie est vraie dans la restauration. Elle est vraie partout. Et à la fin de l'année, on a vu métier après métier, ça n'est plus possible. Donc il y a effectivement cette question derrière. C'est une question de société extrêmement profonde. Derrière l'abondance et la petite phrase de communication. C'est compliqué comme question quand même.
Merci à toutes les deux. C'était un plaisir de vous recevoir pour ce jour de rentrée. Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, Carole Barjon de l'Obs. On se demandera, à la rentrée sociale, y aura-t-il de la conflictualité ? Geoffroy Roux de Bézieux, que j'ai cité il y a quelques minutes, n'y croit pas. Lui pense que la rentrée va être plutôt calme.
Ça dépend des syndicats. Pas de Jean-Luc Mélenchon.
Exactement. Il n'aura pas toutes les réponses. Il est 8h58 sur Europe 1. Dans un instant, vous allez retrouver Philippe Vandel, Culture Média, nouvelle saison pour lui. Et où est-ce qu'il est ? Ah bah il est là ! Il est là, bonjour mon cher Philippe,